Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués.
Tu trivialises ma poésie, Mathis.
Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher.
Ah ouais.
C'est normal. C'est laisse-moi kiffer. Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis ?
J'ai plus envie.
Yo, Guillo, Guillo, Guillo.
That is...
Et moi, même si je sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rat barré sur le truc.
Faut plus être agréable ici. Merde.
Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable.
Tu voudrais dire que Kalindi est un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup ?
Absolument pas. Moi.
Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois.
Bon, attention ! Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer, épisode 209, ish ou pas, on verra, on a des galères d'épisodes. Je suis Mimi Hegel, je suis présentatrice de Laisse-moi kiffer et pour la première fois depuis bien longtemps, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas entendu, car pour la première fois depuis bien longtemps, il n'y a pas eu d'épisode jeudi dernier. La bonne nouvelle, c'est que ce bon Mathis... Bonjour Mathis.
Jeudi, il y a deux semaines du coup, parce qu'en fait, le jeudi dernier, c'est le jeudi là où est sorti aujourd'hui le replay Twitch. C'est le jeudi d'avant qu'il n'y a pas eu d'épisode.
Bref, vous voyez, vous avez passé un moment récemment, un jeudi triste, où il n'y avait pas d'épisode de Laisse-moi kiffer pour vous accompagner, et c'était tragique. Et du coup, ce bon Mathis vous a demandé sur Instagram vos théories sur pourquoi il n'y a pas eu d'épisode. Petit medley, il n'y a rien à kiffer cette semaine, c'est faux, il y a à kiffer tous les jours. Le chat a pissé sur les micros, c'est faux, car chez Humanoïde, il n'y a pas de chat, seulement des chiens, dont Ruby. Il y a trop de soleil dans le studio d'enregistrement, c'est faux, car notre studio n'a pas de fenêtre. Sachez-le, vraiment, on ne voit pas vraiment la météo. Aïda a marché sur le mauvais câble. Calomnie, personne ne marche sur des câbles dans les soirées.
Elle l'a déjà fait.
Aïda a fait un burn-out à force de recevoir trop de pigeons, c'est possible, ça peut vous arriver. Mathis est encore en festival.
C'est quoi celui d'après ?
Pas en festival ce jeu. Si t'étais pas là, en plus, ce jeu, tu étais en vacances.
J'étais en vacances. C'est pour ça que j'ai mis une story en disant ah là là, désolé, il n'y a pas d'épisode de l'MK. Et vraiment, la photo que j'ai mise en fond, c'était Naples.
Le pire gars. Mais en vrai, non, ce n'est pas de la faute de Mathis s'il n'y a pas eu d'épisode pendant un jeudi. C'est la raison que Paddy Pado a deviné presque, qui est la reine est morte, LMK est en deuil. Écoutez, parfois dans la vie des médias, il faut suivre l'actualité. Et parfois, la reine d'Angleterre, qui règne depuis environ 128 siècles, décide d'être au seuil de la mort un jeudi, qui est le jour où on tourne LMK. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on tourne pas LMK, parce que quand on est un média, on doit suivre l'actualité. Et du coup, on va pas mobiliser toute la moitié de la rédac, alors que, maybe, la reine d'Angleterre va décéder. Et on a bien fait d'ailleurs, puisqu'elle est malheureusement décédée, mais du coup, on a bien fait d'annuler, c'était pas dans le vide, quoi.
Peut-être si on n'avait pas annulé, elle serait pas morte.
Mais c'est je pense faute. Que la meilleure hypothèse appartient à Telganar, qui dit « parce que ». Entre parenthèses, la moitié des infos. Voilà, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode pendant un jeudi ? Parce que, vous compléterez chez vous. Bienvenue du coup dans ce LMK numéro 209, We Are Back, tous les jeudis, dans vos oreilles. Je suis toujours Mimi, et je suis toujours entourée d'une équipe de choc, avec un twist cette semaine, puisqu'il y a une voix que vous n'avez jamais entendue qui va se présenter à vous. Et on va, comme d'habitude, présenter toute cette équipe avec une petite question de type questionnaire de Proust. L'automne arrive, vous savez que c'est ma saison préférée, le froid arrive, on a fini de suer, on a fini de boire des trucs frais. Du coup, j'ai envie de vous demander, quelle boisson chaude êtes-vous, en commençant par toi, Mathis ?
Je pense que je suis du thé, parce que le
thé... Mais quel thé ? Parce que s'il y a bien un truc que je sais sur les gens qui boivent du thé, c'est qu'il n'y a pas du thé, ça n'existe pas du thé, c'est un thé.
Voilà, c'était
par
ça mon
occasion,
twist.
Par mood, par esthétique,
c'était
par
ça mon twist.
Mercure en rétrograde, quoi.
C'était dire que je suis une personne, on ne sait pas, est-ce que je vais être bien aujourd'hui ou est-ce que je vais être absolument dégueulasse, est-ce que je vais être un thé anglais ou un thé rooibos, on ne sait pas. Et voilà, c'était ça mon twist, mais du coup, comme t'as complètement pété mon
désolé,
truc,
je t'ai niqué
et
blague.
Je suis une tasse de Javel chauffée au micro-ondes, voilà.
Ne faites pas ça chez vous.
C'est extrêmement
toxique.
Je pense
que c'est mauvais pour votre micro-ondes, déjà peut-être, pour votre tasse probablement et pour vous.
Alors la tasse sera nickel.
Ah ouais, la tasse sera très propre. Que... Mais peut-être inutilisable à jamais pour contenir des choses dédiées à la consommation humaine.
C'est vrai.
Je suis désolée de t'avoir cassé ta vanne, Mathis.
C'est pas grave.
Et moi, je pense.
Ça fait 13 ans que je travaille dessus.
Comme le. Ah, c'est long pour une vanne, c'est pas non plus dingue, quoi. Comme le thé, tu réconfortes et tu es, tu vois, versatile. Tout le monde t'aime, sauf moi, car je, c'est peut-être le moment de t'annoncer que je déteste le thé, je ne digère pas le thé, et pour moi, tous les thés sont pas
tout
pas
le
top.
Monde t'aime, sauf toi, c'est génial.
T'aimes beaucoup, Mathis.
Merci beaucoup.
Sois fière.
Bonjour.
Tu es le plot twist de cet épisode.
Eh oui, c'est ma première participation à un podcast, je tiens à le dire.
Oh my god, merci, on dirait déjà que t'as fait ça toute ta vie.
Voilà, non mais merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Et pour répondre à ta question, eh bien écoute, je pense que je suis du chocolat chaud avec un peu de cannelle.
Ok, voilà. Chantilly ou pas chantilly?
Chantilly selon le mood. Chantilly okay. Si je me sens fancy, ouais.
Okay.
C'est pas souvent le cas, mais...
Quand on a envie de glow, on
exactement.
Met de la chantilly.
Exactement,
vois.
Voilà. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'un peu chaleureuse, sucrée.
Mm-hmm.
Voilà, on peut le dire.
Délicieuse, je pense qu'on peut le dire.
Exactement, voilà. Et tout le monde l'apprécie. Qui n'apprécie pas le chocolat chaud?
Si j'ai vous envie n'apprécie... de dire les intolérants au lactose et mon pote Manu qui déteste le cacao.
Anthony,
et Anthony Vincent
Anthony, lève la main.
Non, mais il y a chocolat et chocolat. Genre, chocolat chaud bof, mais le chocolat de première communion, on en reparlera.
Alors, en tant que personne athée qui n'a pas d'éducation religieuse, il y a un chocolat spécial pour la... Moi, j'étais jalouse de mes cousins qui faisaient la communion quand j'étais pré-ado, parce que j'étais là... En vrai, grosse fête, ils ont plein de cadeaux, genre
mais
hyper
plein
cher.
De cadeaux.
Ils sont bien sapés et tout. Après, j'ai grandi et j'ai dit, ah ouais, non, ça a l'air un peu... Enfin, je suis contente de ne pas m'être tapé 10 ans de catéchisme pour avoir des cadeaux.
Ouais.
Mais du coup, c'est quoi le chocolat de première communion?
Attends, mais termine, Sophia, non? Genre, bah...
Attends, tu veux dire qu'on fait une digression? Non, laisse-moi kiffer.
Ok, ok, okay.
T'inquiète pas, mon gars, on va
revenir.
Tout va bien.
Le chocolat de première communion, c'est un chocolat que tu bois à la première communion dans les Antilles françaises, enfin, surtout en Martinique. Et en fait, c'est un chocolat extrêmement épicé. Pas
du
avec
piment,
du piment, non, mais avec beaucoup de cannelle, de noix de muscade, de citron vert, d'écorce d'orange, d'extrait d'orange amer.
Bah c'est Sofia, du coup, c'est bon.
D'amande amère aussi, je sais pas. Je sais
elle
pas.
A dit cannelle, mais je suis sûre qu'elle sous-entendait tout le reste.
Tout à fait, oui, bien sûr.
Ce chocolat que nous connaissions.
Cannelle, trois petits points, finalement.
Oui, exactement.
Et un peu de maïzena, ce qui fait que ça l'épaissit, et donc c'est
mais
vraiment
j'adore.
Ultra réconfortant et... Et en fait, tu as envie d'aller à toutes les premières communions de tous les enfants de ton entourage pour manger ça. Et tu peux aussi en manger à d'autres occasions. Hein. Ma mère, elle en fait peut-être 2-3 fois par an. Et du coup, elle nous invite pour l'occasion. Et on mange ça avec du pain au beurre, qui est une espèce de brioche en un peu plus stock. C'est pas juste du pain avec un morceau de beurre dedans. C'est vraiment une brioche élaborée.
Oui, c'est super.
Oui, c'est super, c'est vrai. Et qui est tressée de manière particulière et tout. Il y a plusieurs levées, donc ça met grave des heures. Et je fais ça avec ma mère... C'est un rituel que j'aime beaucoup, le chocolat première communion et le pain au beurre. Il y a un équivalent guadeloupéen, mais le nom m'échappe actuellement. Je vous retrouverai ça.
Waouh.
Mais parfait, merci. Tu vois, je pense que je suis effectivement un...
Le chocolat de première communion.
Exactement.
Aux Antilles avec le pain au beurre.
Ouais, c'est ce
voilà.
que t'avais dit de base,
bien sûr.
De toute façon.
Mais tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est pour ça que je disais, que je précisais avec de la cannelle. Parce que c'est le petit côté un peu épicé, le petit côté, on s'y attend pas, mais
yes.
ça fait plaisir. Mmh. Tu vois, bah voilà, je pense que je suis un petit peu ça. Et selon moi, ceux qui n'apprécient pas le chocolat chaud, le chocolat chaud, excusez-moi, sont aigris. Voilà, tout simplement.
Bisous à mon pote Manu, once again, qui déteste le cacao sous toutes ses formes. Est-ce que tu peux dire un peu qu'est-ce que tu fais chez Mademoiselle et d'où tu sors pour celles et ceux qui n'auraient pas l'info?
C'est vrai, vous ne le savez peut-être pas du coup, mais je suis vidéaste brand content.
Bravo.
Je viens rejoindre la régie commerciale avec grand plaisir. Voilà, avant ça, j'étais en freelance, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas encore.
Je suis freelance maintenant, j'ai quitté Mademoiselle pour être freelance, donc on va dire heureusement.
Oui, voilà, je pense que c'est mieux de faire dans le sens là, tu vois, d'abord d'avoir
oui.
un petit... d'être salarié.
Un bon 10 ans de CDI,
exactement.
Trouver un appart à Paris, tout ça et tout. Et après, voilà. Tu quittes ton travail, bien sûr. C'est l'ordre que je vous recommande chez vous.
Oui, je vous recommande ça également parce que j'ai vraiment fait, pas l'erreur, parce que ça reste quand même une expérience superbe, mais voilà, avoir un salaire qui tombe tous les mois, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Voilà. Donc, surtout quand on a le réseau de Paris, je pense que c'est quand même mieux de se lancer après en freelance.
Oui.
Voilà.
Notamment,
sachant que
j'insiste sur trouver un appart avant de quitter votre CDI, c'est très important parce que ça va être très compliqué après. Je ne cherche pas,
mais oui.
Exactement.
J'ai entendu que c'est
non,
compliqué.
Mais, ouais, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que j'ai, bah, que j'ai pris un CDI. Non, pas du tout. Que j'ai entamé un CDI, quoi, pour trouver un appartement.
Et bienvenue dans la CDI voilà. vie.
Et
bien, bienvenue merci. Chez Mademoiselle.
Voilà.
Et bienvenue dans l'espoir qui fait.
Et bienvenue à moi à Paris, puisque.
Et bienvenue à Paris.
Je suis fraîchement arrivée à Paris.
Oh my god.
Et je suis ravie. Et je
j'ai
pense qu'on va aller
des bars où la porte est à moins de 4 euros en API, si tu veux.
Oh.
Voir toute la soirée.
Genre pas le central.
Le central, c'est 4 euros en API, je crois.
Ah ouais?
Ouais. Ça descend pas en dessous, mais je crois que c'est 4 euros en API. Bah après, il faut prendre des pintes et pas des verres de chardonnay.
Oui, voilà, c'est ça.
I feel very attacked. Mais okay.
C'était une double attaque. Hein. Vraiment, t'as pris une balle collatérale. Mais là, je crois que j'étais visée.
Peut-être que je viens de boire un verre de chardonnay au central, on ne sait pas. Bienvenue, Sofia.
Merci beaucoup.
Si Laisse-moi kiffer la pistache des podcasts, Sofia et la cannelle dans le chocolat chaud qui Laisse-moi kiffer. Voilà. Vous l'avez. Filez la métaphore chez vous. Essayez le chocolat chaud pistache. C'est peut-être super. On ne sait pas. Vous nous en donnerez des nouvelles en DM. Laisse-moi kiffer sur Instagram.
Je pense que c'est super.
Oui. Ouais, je confirme, c'est vraiment super. Je passe ma vie avec
c'est un expert chocolat chaud en vrai. T'étais déjà un expert sirop en vrai, t'es un expert chocolat chaud.
Je suis très mixologue, tu vois. Genre, j'adore faire des boissons un peu fancy et tout, ça m'occupe énormément. Mais j'achète beaucoup de beurre d'oléagineux et parfois il reste du beurre de cacahuète au fond du bocal ou d'amande complète ou bien de pistache. Ça coûte vraiment la peau des fesses.
Oui, déjà et les pistaches c'est cher, mais le beurre de pistache c'est un smic, je pense.
Ouais, ouais. Genre, c'est hors de prix et pour pas en perdre une miette, c'est-à-dire 10 euros, eh ben, je verse du lait d'une boisson végétale, genre lait d'avoine ou lait de riz. J'adore le lait de riz, pardon. Et du coup, tu le fais chauffer et ça t'aide ensuite à touiller à l'intérieur et à récupérer le moindre gramme de beurre de pistache.
Les astuces anti-gaspi d'Anthony Vincent.
Et ça aromatise ton chocolat chaud et c'est encore meilleur. Voilà.
Waouh. Je testerai ça cet hiver avec grand plaisir. Cet automne même. C'est d'ailleurs aussi ma saison préférée, je tiens à le dire. Je suis née
automne,
le jour de l'hiver.
Yeah.
J'aime beaucoup l'automne aussi, j'avoue.
Ouais. Ah bah là,
meilleure saison.
Croyez-moi, si vous êtes team été, Laisse-moi kiffer, là vous allez passer un très long 8 mois parce que on va être en, c'est moi qui anime, on va être en automne, ok, let's go. On
full kiff citrouille, vraiment.
Ah ouais,
que
ouais,
ça.
Ouais. Non mais là, tout mon Instagram, toutes mes publications, genre suggérées, sponsorisées, c'est que des trucs genre, aimes-tu les citrouilles et les champignons? Je suis là, oui, évidemment, toute l'année, on le sait. Mais là, ça commence à kicker, je suis ravie. Du coup, Anthony, est-ce que t'es un chocolat de première communion en boisson chaude et on a inversé du coup, ou est-ce que t'avais une autre réponse?
Il y avait une autre réponse et un rectificatif à faire. Le rooibos n'est pas un thé. Je suis désolée. J'ai travaillé un an.
Je sors de cette salle. C'est trop.
C'est vendu dans les trucs de thé. Moi, je suis une personne qui ne boit pas de thé. Du coup, je suis très perdue par rapport à toutes les offres de thé. Et le rooibos, c'est vendu comme le matcha avec le thé. Donc, moi, je croyais que c'était du thé.
Ouais, ouais, non. C'est un arbuste endémique d'Afrique du Sud qui pousse que après des feux de forêt. C'est hyper spécifique. Enfin, c'est une plante hyper rare qui est extrêmement compliquée à produire. Enfin, on peut pas provoquer sa pousse.
Bon, de moins en moins, c'est ça qui est bien.
Oui, j'allais dire, est-ce que c'est un peu aigri, enfin un peu cynique de dire du coup, grâce au réchauffement climatique, on a une offre de rooibos qui va s'intensifier.
Tout ça pour ça, tout ça pour du rooibos.
Dans le rooibos.
Bernard Arnault, c'était donc ça ton plan.
Ouais. Il a des parts dans la rooibos mafia.
Bah, en vrai, ça va devenir une boisson d'exception, ouais, effectivement, parce que ça devient pas beaucoup plus commun. En tout cas, a priori, non, il me semble pas. C'est une plante qui a besoin d'être stressée pour pousser et en fait elle pousse après les feux de forêt qu'on essaye de provoquer.
Plus de feux de forêt.
Je suis tellement un rooibos.
Peut-être bientôt du rooibos au Pays Basque, on ne sait
mais
pas.
Justement, ça pousse qu'en Afrique du Sud, mais peut-être bientôt ailleurs. Mais en fait, ça a déjà été tenté et ça fonctionnait jamais. Peut-être qu'avec le réchauffement climatique, ça va changer effectivement. Mais en tout cas, c'est plus compliqué sur la mountain table en Afrique du Sud. Et du coup, il n'y a pas de théine dedans. On le surnomme le thé rouge, effectivement, à cause de la couleur du breuvage, mais c'est pas un thé, c'est pas la même plante, c'est pas un arbuste de thé, quoi.
Je vois.
Okay. Et c'est vraiment
c'est
super
comme
bon.
Dire une verveine, c'est un thé. Genre, non, une verveine, c'est pas du thé, c'est une autre
non.
plante.
Non, ouais, voilà, c'est l'infusion d'une autre plante.
Je croyais que c'était un chapeau, mais ok.
Quoi? Un chapeau? Une verveine?
Je sais pas, ça sonne vachement mon chapeau, non? Mets ta verveine, on sort.
Mets ta verveine, il pleut. C'est vrai que
Catherine, prends ton manteau, mets ta verveine, on s'en va.
Moi, je suis plutôt bois ta verveine, on a bien mangé, soit en infusion, soit en Dijon. Sachez que la liqueur de verveine, c'est triché, mais c'est très bon.
C'est hyper bon.
C'est vraiment
verveine,
très, très,
ouais,
très,
ouais,
très, très bon. C'est super. Ça
je sens qu'on va bien s'entendre, Mimi.
Et ouais, en fait, il y a vraiment des cépages de rooibos, c'est extraordinaire. Je me rappelle, j'avais travaillé du coup pour une maison de thé qui avait 50 rooibos différents, c'est oufissime. Enfin, bref, et du coup, donc
tu vois, c'est une maison de thé qui fait du rooibos, donc
oh, oui, la confusion est totalement permise et entretenue par l'industrie agroalimentaire.
Merci.
Je m'égare dès le début du podcast, je voulais juste dire que je serais du matcha parce que j'adore ça.
Ah ouais,
du matcha,
donc le matcha c'est du thé. Alors c'est moi,
matcha,
dans ma tête
thé,
c'est la poudre de thé verte assez amère japonaise qui sert à la fois à faire du thé et à faire plein de pâtisseries pas très sucrées mais de en tout cas de recettes au matcha, tu vois.
Ouais, c'est ça. Bah de toute façon, on avait parlé pendant le live Laisse-moi kiffer récemment. Je sais pas dans quel ordre ça va sortir. La semaine dernière, évidemment. Merci Mathis. La chronologie est tout à fait logique. Et du
Laissez-moi.
Le matcha, oui, littéralement, je crois que ça veut dire broyer. Du coup, c'est des feuilles de thé qui ont été broyées, pilonnées, et d'où cette poudre verte assez vif. Et c'est vraiment délicieux. Et voilà, mais n'achetez pas n'importe quel matcha pour cuisiner avec, parce que vraiment c'est du gâchis. Enfin, ça coûte super cher le matcha, le
oui,
vrai.
C'est comme du les coup... pistaches, non, ouais. C'est pas n'importe quoi, c'est très cher.
Voilà, il y a du matcha pour la cuisine et du matcha cérémonie, on dit généralement, pour faire un vrai matcha comme il se doit. Et du coup, j'adore ça et tout le cérémonial qui est autour. Voilà, ça
quand
me détend.
On parle de la cérémonie du thé japonaise, est-ce que. Alors, bon, t'es pas spécialiste du Japon, donc si tu sais pas, tu sais pas. Quand on parle de la cérémonie du thé japonaise, est-ce que c'est forcément du matcha ou c'est non. Genre n'importe quel thé?
Pas forcément du matcha, ouais.
Ok. Le truc où ils versent de l'eau chaude sur la théière et c'est tout ça, machin, ouais. Ça marche avec plein de thés différents.
Ouais.
Et est-ce que du coup avec le matcha, il y a un rituel spécifique comme c'est de la poudre et pas des
ouais.
Feuilles et tout?
C'est un autre rituel, effectivement, ça demande d'autres ustensiles parce que tu dois prendre ton matcha dans le pot avec une... quelque chose qui ressemble à une cuillère en bambou, une espèce de toute petite spatule pour prendre la juste quantité. Tu dois aussi ramollir les fibres de ton fouet en bambou, qu'on appelle un chassen, c'est H-A-S-E-N. Du coup, tu dois remuer ton matcha. Enfin, tu commences par mettre un tout petit peu d'eau pour délayer un petit peu la poudre. Ensuite, tu verses vraiment le reste de l'eau dans ta tasse, dans ton petit bol qui est fait exprès pour le matcha. Enfin, et ensuite, tu dois fouetter en forme de M ou de Z et pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'une mousse apparaisse. Et après, tu peux déguster. Voilà. Alors que le thé...
C'est des choses, c'est Anthony Vincent. C'est...
J'ai vraiment travaillé dans le thé pendant longtemps. Donc, et c'est un peu une passion.
J'ai grandi dans le thé, ok. J'ai fait l'école du thé.
Voilà, non mais j'aurais adoré être sommelier de thé ou œnologue, je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est sommelier. Pour le coup, c'est sommelier de thé.
Ah ouais.
Pour faire des accords aussi, thé et mets, c'est extraordinaire. Enfin,
en tant que personne qui ne digère pas le thé, je vois tout un monde gastronomique où je suis là, oh non. Oh non, tant pis, c'est
mais
pas
c'est
grave.
Les tanins que tu digères pas dedans.
Bah en vrai, je pense que, enfin c'est la théine, je pense, parce que le café ça va. Le thé, le seul thé que je supporte, c'est le thé à la menthe marocain, mais bon, déjà j'ai grandi avec et aussi c'est quand même 80% de menthe et de sucre et pas énormément de thé. Il y a un peu de thé vert, mais pas beaucoup. Mais tu me sers un thé qui soit vert, noir, matcha. Alors peut-être pas rooibos du coup, mais vraiment mon bide il est là assez long. Genre c'est digestivement c'est pas possible. Donc désolé. Mais par contre j'aime bien genre la bouffe au thé. Ça va, tu vois, ça m'arrive parfois dans des restos un peu cool de manger un truc infusé au thé ou fumé au thé. Bah le goût j'aime bien, mais et j'aime bien les infusions et tout. Mais c'est la théine, c'est pas poss.
Ouais, souvent je jette le sachet de thé, enfin, j'achète du thé en vrac et du coup, dans la boule à thé, en fait, souvent je la mets dans l'eau de cuisson de mon riz. Enfin, et du coup, ça aromatise ce que
ah,
tu
wow.
cuisines, c'est vraiment trop
belle idée.
Ah, c'est le même choc que quand j'ai découvert la tome aux fleurs, qui est un fromage
ah, ouais,
avec
ouais,
des fleurs dessus qui donne
ouais.
du goût. Incroyable, très bien.
Mais peut-être que c'est parce qu'il est pas assez. Enfin, peut-être que le thé marocain, il me semble que c'est bouilli avec le thé, alors que normalement, le thé, tu ne peux pas le faire bouillir. Mais,
Oui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de théine dans le thé marocain. En vrai, je pense que c'est le sucre qui te réveille.
Ouais,
c'est
aussi.
Pas le thé. C'est vraiment le shot de sucre où tu es là, OK, let's go.
Toi, quelle boisson chaude serais-tu, Mimi?
Mais je suis. Alors, certes, marocaine, mais je ne vais pas dire le thé à la menthe parce que c'est. En tant que personne qui ne boit pas de thé, c'est quand même un peu. Hypocrite. Je suis du vin chaud, car je suis aussi alsacienne. Et que
oh
le vin chaud.
Pourquoi j'y ai pas pensé?
120% de ce que j'aime dans ma vie. Le vin rouge, c'est super. C'est mon vin préféré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais un peu de vin rouge de temps en temps, c'est sympa. Et le vin chaud, il y a à la fois l'aspect rituel aubergiste chaudron qui me va très très bien, puisque c'est vraiment, t'as une grosse marmite qui mijote, qui bouillonne là, tranquillement, parce qu'il faut pas le faire vraiment bouillir, où tu mets plein d'aromates, la cannelle, l'anis étoilé et tout. En plus, j'aime bien les épices enfin, entières, qui sont pas broyées et tout. Et dans le vin chaud, c'est beaucoup de bâtons de cannelle, d'étoiles entières d'anis qui vont infuser. Et je trouve que ça donne tout de suite une gueule très poudlard à la Zumba, quoi. Et après, le côté réconfortant
c'est
du vin chaud est quand même. Oui.
Je sais pas si on peut faire plus LMK que cette phrase.
J'avoue, une phrase très mimicore pour le coup. Il manque un petit contexte quelque part.
Il y en a pas.
C'est horrible, là j'ai commandé pour ma chaîne Twitch des emotes personnalisés, donc des émoticônes qui sont spécialisés pour les gens qui s'abonnent à ma chaîne.
Oh.
Et du coup tu peux faire ce que tu veux. Donc j'ai demandé évidemment un champignon, j'ai une girole, j'ai une cigogne qui pleure, j'ai mon chat Momo de différentes façons, parce qu'en gros il faut un émoji triste, un émoji content, etc. Et j'ai deux émojis full mimi, parce que j'en ai un qui dit contexte et un qui dit is ok. Et du coup dès que je dis ok contexte, les gens ils sont là contexte et ils mettent l'émoji contexte et je suis ravie. Bref.
Le chat zinzin en feu.
Oui, chat zinzin en feu. Du coup, non seulement le vin chaud est délicieux, il est aussi réconfortant, il est un petit peu alcoolisé, donc quand t'en bois 2-3 verres, tu commences à avoir un petit buzz. Et puis pour moi c'est comme les premiers jours d'automne où tu... Mais j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer, bah, peut-être il y a 2 ans, mon kiff de septembre c'était quand l'air, le fond de l'air est frais, littéralement, et que le monde te dit l'été c'est fini. Genre t'es là en mode ok, les jours vont que faire se rafraîchir et se raccourcir et on rentre dans l'automne, let's go. C'est une de mes sensations préférées et pour moi l'odeur du vin chaud c'est pareil mais pour l'hiver quoi, c'est genre ok,
Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et c'est très drôle parce que le fait que tu dises le fond de l'air est frais, je pense que c'est un truc typiquement alsacien parce que mon ex-belle-mère qui est alsacienne...
Et on l'embrasse
On l'embrasse. Si on l'embrasse, okay. Totalement. Salut Annick. Effectivement, elle disait aussi le fond de l'air est frais. Voilà.
Tout à fait.
J'avais jamais entendu ça.
Pour moi, c'est une expression de la langue française, mais alors peut-être un peu plus nord-nord-est, c'est possible.
Parce que le fond de l'air
est frais tôt dans ces régions-là. Et c'est ce vrai truc, ouais, de... Mais tout comme... En fin de printemps, tu commences à avoir les premières journées où tu te dis, ok, c'est l'été qui arrive. Genre, la première fois où t'es en terrasse et t'es en t-shirt et tu mets pas de gilet, et t'es là, ok, à partir de maintenant, on va faire que aller vers l'été. Moi, c'est l'inverse qui me plaît, c'est le moment où tu mets ton gilet et où le fond de l'air est frais, où t'es là, ah, let's go, c'est l'automne. Du coup, le vin chaud, c'est exactement la même émotion, mais pour l'hiver. Et après, j'ai en plus tout le côté marché de Noël, vin chaud, c'est en plus un truc collectif, quoi. On se fait rarement une marmite de vin chaud solo. Même moi, je l'ai. Fait.
Les gens vont mal.
Jamais, mais je ne vous jugerai pas, mais une marmite de vin chaud pour une personne, c'est faites la durée quand même. C'est beaucoup. Hein. Faites attention à vous, encore une fois. Prenez soin de votre santé. Et du coup, le vin chaud, c'est convivial. C'est l'hiver, c'est l'Alsace, c'est Véry Mimi.
Et évidemment. En fait, comme c'est très sucré, je trouve ça hyper traître. J'adore ça aussi.
Ah oui.
Un enfant de l'automne, c'est ma saison préférée également.
Un enfant de l'automne, c'est le deuxième titre de ce podcast.
et vraiment, moi, ça m'arrache la gueule parce que j'aime trop, en fait. Du coup, j'en bois des verres et des verres et des verres. Et vraiment, le lendemain,
j'ai archi mal au crâne. D'aller boire des vins chauds cet hiver avec toi, dis donc.
Avec plaisir.
En vrai, c'est pas si cher en général. En plus, sur les marchés de Noël et tout...
Ça
pourrait avoir le prix d'un cocktail et en fait non,
tu vois. Et c'est vraiment, c'est 3 balles le gobelet et après, tu fais 3-4 stands du marché de Noël, t'es là. Time to manger un bretzel.
Puis tu commences à acheter des trucs absurdes, genre les espèces de machins brodés affreux que tu mettras jamais nulle part.
Bien sûr. J'adore acheter des trucs en bois, genre des casse-têtes. Mais oui. Mais je vais jamais le faire, mais c'est pas grave.
Moi aussi, je vais travailler avec un bonnet de Père Noël, ça va être super.
Et oui, c'est super. Et il y a que avec l'odeur du vin chaud qu'on se dit c'est une bonne idée d'acheter un bonnet de Père
Évidemment.
Noël. Du coup, vive le vin chaud. Ok, c'est la fin de cette première partie de l'intro de ce podcast. On va aller un peu vite sur le reste de l'intro. J'ai l'impression de dire ça à chaque épisode ces temps-ci. Là,
on le fait jamais.
À la fin, on est trop long et je sais que vous aimez les épisodes longs, mais rappelez-vous aussi qu'il y a des gens qui, pas comme moi, ont un travail à horaire fixe et qu'on peut pas non plus faire des épisodes qui durent 3 heures. Okay.
Genre le reste
Sauf sur Twitch. Sur Twitch, ça peut durer longtemps. Donc n'oubliez pas, tous les derniers mercredis du mois à 20h, laisse-moi kiffer sur Twitch et on est beaucoup moins pressé par le temps. Je pense qu'on peut le dire parce qu'on finit généralement à 23h. On va quand même faire, bien sûr, les étapes classiques de cette intro. On va juste pas en faire 1000. Du coup, on va commencer par les commentaires. Mathis, est-ce que tu as un commentaire ?
J'ai un commentaire que je ne vais pas lire. Oh, si, quand même, elle dit
Lis-lui
des trucs
en
rigolos.
Entier, au point où on en est.
C'est un commentaire de Anne qui s'appelle sur Instagram The Water Lily Project. Je ne sais pas ce que c'est que le projet de Madame Lily O. Et elle m'envoie « Salut Mathis, mini réaction à l'écoute de ta rencontre avec Ruby. » Avec Ruby, j'ai plus prononcé le nom de mon chien. Alors, contexte, je suis en train de monter un podcast sur le rugby. Ça fait 3 heures que j'entends parler
du
ballon
ovale. J'ai envie de renommer ton chien rugby maintenant.
Vraiment, je sais pas. Je pense que si on plaque Ruby par terre, vraiment, elle va pas très bien le vivre. Donc voilà, donc j'ai parlé de Ruby donc, dans le dernier épisode de LMK que vous avez sans doute écouté parce que la plupart des gens l'écoutent quand même relativement dans l'ordre. Et elle me dit « Merci d'avoir mis les mots sur le pouvoir magique de ce premier regard échangé avec ton petit chien. J'ai ressenti quelque chose de similaire avec Maga, ma petite cavalière King Charles, récupérée dans une ferme un peu étrange en Aveyron, gérée par une personne qui ressemblait à s'y méprendre à la vieille qui crache des crapauds dans le film Peau d'âne de Jacques Demy. C'était un moment... Vous voyez pourquoi j'ai envie de le lire quand même ?
Oui.
C'était un moment ultra surréaliste. J'ai rencontré Maga dans un petit cagibi puant la cigarette où deux perruches faisaient un bruit infernal. Je suis rentré dans la pièce, j'ai croisé son regard, j'ai eu l'impression de comprendre tout ce qu'elle pensait. Spoiler alert, pas grand-chose.
Oui, probablement si c'est un chien. Gratouille, dodo, manger. Oui, voilà. Renifler des culs, super.
Et elle me dit, et je sais que quelque chose de super intense s'est créé entre nous ce jour-là. Bref, c'était chouette. En t'écoutant de me rappeler ce court mais super important moment de ma vie, il y a 2 ans et demi, câlin à Ruby et une bise pour toi. Sorry Ruby, à tous les privilèges. Et du coup, elle m'a envoyé des petites photos de son petit cavalier King Charles qui est dans un petit sac sur son dos dans le vélo. Et je trouve ça incroyable.
Trop bien.
Elle m'a dit en vélo...
Je me sens toujours quand je vois des gens à vélo avec leur chat et leur chien et tout. Je suis là, mais vraiment, moi, mon chat serait incapable de rester
mais
tranquille.
Mais c'est un chat.
Oui, non, mais...
Non, mais il y a des gens qui font ça avec leur chat, genre sur leur épaule, et je suis là, mais c'est qui ton chat ?
Ouais, mais ils prennent, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être à les éduquer à ça, tu vois. C'est ça. Un chien, il l'écoute beaucoup plus facilement. Un chat, vous savez si vous avez un chat.
Ouais.
Après, je pense pas que tu fais du vélo avec Ruby sur ton dos, non ?
Non, moi, Ruby, je l'ai dans le panier, elle est devant moi et elle me fixe tout le long.
Elle te regardait là. Ok, on y va.
Puis des fois, elle prend un air un peu intense, genre en regardant la vue. Tu sais, un peu en mode, t'es à la pointe du bateau et tu regardes les vagues. Mmh. Bah, elle est un
peu
en mode, je suis Chateaubriand.
Quand t'es dans le bus et t'as la tête contre la vitre. Voilà. T'es là, je vais écouter Linkin Park et penser à mes émotions.
C'est ça. Et là, tout d'un coup, boum, des pavés. Elle est pas contente.
Ouais. J'adore Ruby. Merci pour ces commentaires, Mathis.
Pas de soucis.
Sophie, a priori, tu n'as pas de commentaires sur ta dernière prestation. Laisse-moi kiffer car c'est la première.
Effectivement, tu as tout compris.
Très bien. Pas de plot twist du coup. Voilà. Anthony, as-tu un commentaire ?
Peut-être on donne le Insta de Sofia.
Bien sûr, pour envoyer. Pardon. Alors si tu es ok.
Mais avec plaisir.
Pour envoyer du feedback à Sofia sur cette incroyable première prestation dans Laisse-moi kiffer et réagir à ce qu'elle raconte et réclamer sa présence de nouveau, vous pouvez lui envoyer des DM à
@Sofia, Sofia, c'est un peu compliqué, tiré du bas, P. P comme Patrick.
Et ça, c'est pas compliqué.
Voilà.
Anthony, tu as un commentaire ?
Oui, alors j'ai reçu 2-3 commentaires archi-random qui m'ont donné le vertige de personnes qui m'ont reconnu sur une photo à Genève, sur un quai. Je sais même pas ce que ça fait là, genre random.
Ok, d'accord.
Je crois que j'ai participé à un festival il y a 2 ans avec un photographe qui me disait un truc, et j'ai dit ouais, bien sûr et tout. Et en fait, il a fait une expo, genre avec plein de gens. Non, mais avec plein de gens, et ma tête notamment, tu vois. Et du coup, j'ai reçu 4-5 photos de gens qui m'ont dit « Oh, j'ai vu ta tête de manière random à Genève », dont une personne qui m'a dit « Je venais de rompre avec mon mec et ça m'a fait penser à LMK », et du coup, ça m'a fait sourire, donc ça a illuminé mon week-end.
Oh,
je trouve ça cute.
Mais c'est cette petite bouille qui rend les gens heureux.
Vraiment, j'en dirais que je suis en mode soit en train d'aller en prison et que c'est un mugshot, soit que je suis les experts des crimes fashion sont commis. Une unité d'élite est là pour y remédier. Voici la
Alors, je veux cette série. Attends. Anthony, la fashion police, je veux cette série. Mademoiselle.com, let's go là. La prod.
Et il y a Bulle Bizarre qui m'a envoyé un DM intéressant, qui peut intéresser du monde aussi, je veux dire. Elle me dit, je cite, « Coucou Anthony, je suis en train d'écouter le LMK 204 où Aïda parle de son kiff au Muséum d'Histoire Naturelle et où tu rébondis sur l'exposition Pierre Précieuse de l'année dernière. »
Oui, le kiff gémologie, incroyable.
Exactement. C'était pour dire que j'avais adoré cette exposition, tellement que j'ai dû la faire 2 fois parce que j'avais pas fini la première et que le musée fermait. J'étais tellement à fond que j'ai mis 6 heures au total. Et du coup, elle a une petite recommandation, la boutique Van Cleef & Arpels, qui est Place Vendôme, a une petite salle au fond où il y a régulièrement des expositions. Bon, alors déjà pour aller Place Vendôme, chez le bijoutier, enfin chez un joaillier d'ailleurs.
Faut aller Place Vendôme, qui est une place à Paris où il y a énormément de bijoutiers de luxe quand même, donc faut pas y aller en jogging a priori. Ou alors, au culot, let's go. Ensuite, faut rentrer chez Van Cleef, qui est bijoutier de luxe, et aller dans la petite salle au fond.
Exactement.
Donc allez-y avec l'assurance et dites, écoute, excusez-moi, c'est Laisse-moi kiffer qui a dit qu'il y a une salle où on peut aller, donc j'y vais. Vous tracez comme ça et vous dites, c'est Laisse-moi kiffer.
Exactement.
Tout se passera très bien.
Elle nous dit qu'il y a une exposition qui est gratuite, il faut juste demander à l'entrée à aller voir. Les gens sont très gentils et ça pète un peu de rentrer dans une boutique de la Place Vendôme. Donc allez-y, faut se la péter. Et voilà, elle dit, j'adore ton énergie, t'es 48 000 kiffs par seconde.
c'est vrai que tu triches un peu.
Je sais pas.
La légende le raconte.
Il n'y a aucune preuve. Voilà, merci.
Hâte d'avoir ton kiff sur j'ai été dans la pièce secrète de la boutique Van Cleef. Bon, ok, j'ai 2 commentaires, mais ils sont courts. J'en avais 3, donc ça va, ok, j'ai raccourci. J'ai un commentaire de Noémie qui me dit « Hello Mimi, j'avais pris beaucoup de retard sur LMK, là je viens de tout rattraper et tu as trop d'influence sur moi. En quelques heures aujourd'hui, j'ai emprunté Dolores Claiborne à la bibliothèque, donc le bouquin de Stephen King que je vous avais vanté pour la 2e fois potentiellement, et j'ai téléchargé Bed & Breakfast, le jeu de gestion de Bed & Breakfast avec un ours que je vous avais vanté. Je suis en congé la semaine prochaine et je pense que mes congés seront très mimicores. Merci pour tout et pour LMK, pas merci pour ma vie sociale et bonne soirée. Mais bisous Noémie, la vie sociale c'est surcoté, on peut vraiment genre lire des livres et jouer à Bed & Breakfast, c'est très très cool. Et j'ai Éléonore qui m'a envoyé un commentaire que j'ai décidé de lire car je suis jalouse de sa vie, puisqu'elle me dit « Coucou Mimi, bis d'Irlande où je vais tous les soirs boire des pintes dans des auberges médiévales. » Déjà, quoi ? Après avoir traversé des châteaux en ruines et des vieux cimetières. Déjà, j'ai le seum. Entre parenthèses, je voyage avec 2 potes croque-morts. Donc bon, tourisme morbide avant tout. Mais j'ai pu imposer les auberges, donc ça me va. Merci pour vos kiffs et la bise à toute la team LMK. Ce à quoi je lui ai répondu, ouin, c'est quoi ta vie ? Parce que vraiment, j'ai envie d'aller en Irlande avec 2 potes croque-morts et de faire le tour des cimetières d'église et après aller dans des auberges médiévales boire des pintes. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai raté en termes
Jamais
de
on part en vacances ensemble.
Wow.
Jamais.
Mais quoi, t'aimes pas les vieilles pierres ?
Vite fait, genre.
Je sais pas, tu
Est-ce
vois,
que t'es
je
la
me
team
disais,
qui se réveille à 5h et qui fait des chapelles pétées
Non, pas à 5h. Non, je dors jusqu'à 9h quand même. Mais par contre.
9h !
Crois bien que s'il y a des vieux cailloux. Mais je fais plus la grasse mat, j'ai 30 ans maintenant, c'est fini les grasse mat. Mais crois bien que s'il y a des vieux cailloux, on va aller voir les vieux cailloux, bien sûr. Et s'il y a un pub attenant aux vieux cailloux avec un panneau sur le pub qui dit on existe depuis aussi longtemps que les vieux cailloux. Je vais leur donner tout mon argent. Ah, okay. Je vais vraiment toucher tous les cailloux en disant waouh, il y a vraiment des gars de 1500 qui ont bu des pintes ici, c'est fou. J'ai un nouveau bouquin historique dont je vous parlerai bientôt quand j'aurai fini d'ailleurs. Petit spoiler pour un futur LMK. Voilà pour les commentaires. Ok. On va faire une rapido vite bolos et après on va passer au kiff. C'est une vite bolos que j'ai ou. Attendez. Anec bof de star ou vite bolos ? À main levée, vous avez une préférence ? Non ? Vite bolos.
Je lève la main, je sais pas. À main levée, ça n'a aucun sens. Tu nous as pas donné
de choix. Je sais pas pourquoi tu lèves la main. Je sais, c'était ça la vanne. Bon, c'était une vanne visuelle, vous l'avez pas chez vous. Ok. Ouais,
moi j'ai ri.
Une vite bolos de Dara qui nous dit. Coucou, je viens de finir l'épisode 207 et Mimi à la fin dit d'envoyer des vides bolos. C'est vrai que j'adore vos vides bolos. J'en ai une. Dernièrement, j'ai vécu une période de chômage non voulu. Du coup, je sortais avec mes amis et j'étais souvent en roue libre, genre je buvais beaucoup plus et si j'avais envie de dire quelque chose à quelqu'un, je ne me gênais pas. Sachez que je découvre cette vide bolos avec vous, je ne sais pas où ça va, mais je suis déjà.
Moi non plus, j'ai screené sans lire.
On sait pas ce que vous racontez.
On sait pas.
Bon, si c'est craignos, on cutera.
Oui.
Soirée en boîte en novembre, un mec passe devant ma pote et moi, mes yeux ont bugué sur son boule qui chamboule, et du coup je l'ai abordé pour lui dire qu'il avait des trop belles fesses.
J'aurais dû lire avant, je
Bref,
le savais.
Bref, après tout, c'était un inconnu que j'allais jamais revoir. Ok, je vais finir de lire et après on fera un point.
Ok, je vois, je connais la chute.
Août 2022, on m'appelle pour un nouvel emploi, enfin, je passe l'entretien, je suis prise en CDI, jusque-là tout est parfait. Eh bien, figurez-vous que l'inconnu que je ne reverrai jamais est désormais mon nouveau collègue. Yes ! Trois émojis, pouce en l'air.
Mais
alors,
attends,
un plaisir.
Non, mais
Dara,
ça va, c'est
bravo,
cool.
Bravo, écoute.
Bah, si elle lui a dit qu'il avait un boule qui chamboule, bon, ça tend un peu le meeting du matin, quoi.
Pas forcément.
Nos job in the job.
Ça m'est arrivé de faire des compliments sur leur boule à des collègues dans ma vie, mais ma reco serait de ne pas aborder les gens en boîte pour leur parler de leur physique immédiatement. Peut-être un petit bonjour, tu passes une bonne soirée, voir si la personne est en mode flirt avant de complimenter ses fesses ou autre partie de son anatomie. Que ça soit un homme ou une femme, peut-être que la personne est là pour s'amuser, danser et pas forcément se faire mater le boule, voire toucher le boule. Mais il n'y a pas de mal à admirer les belles choses tant que c'est dit avec les formes. Faites attention que vous êtes bourré à dire les choses avec les formes. Et bon courage dans cette nouvelle vie avec ton nouveau collègue. En vrai, je sais pas, c'est pas choquant quoi. C'est
qui aurait archi pas mal pris. Qui aurait dit bah, ah, mais c'est toi qui m'as complimenté il y a un an sur mon cul.
Je t'aime déjà grâce à toi. Oui. Je sais que j'ai pris un petit boost d'ego sur mon boule. Top. On espère que c'est un collègue aussi sympa qu'Anthony Vincent du coup. C'est l'heure des kiffs. C'est l'heure du jingle de Marine Normand.
Bah écoute.
C'est l'heure du jingle de Marine Normand. Let's go.
Voilà, le répertoire est là, je me l'approprie, en bonne interprète que je suis, mais les gens ne sont pas réceptifs. Besoin de rire dans LMK, même si les infos sont pas bonnes. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rire dans LMK. Même si les infos sont pas bonnes. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rire dans LMK. Tada!
Waouh! Wow. Merci Valentin, Marine Normand pour ce jingle. C'est donc l'heure de la pistache des podcasts, à savoir les kiffs de Laisse-moi kiffer. Mathis, c'est quoi ton kiff ?
Eh bien, mon kiff, j'ai beaucoup hésité. J'aurais pu vous parler de mes vacances à Naples où j'ai découvert plein de choses formidables, notamment des stations de métro incroyables dans lesquelles il y a des œuvres d'art. Je ne vais pas vous parler de ça. J'aurais pu vous parler de la série Heartstopper que j'ai découvert 13 ans après tout le monde et qui m'a fait pleurer 13 ans
sur Mademoiselle
après tout le monde. Comment ?
Il y a un article sur Mademoiselle, je le sais, parce qu'il est paru quand j'étais encore là. C'est
et bah voilà.
Si ça date.
Bah je l'épingle. Ouais, non, j'ai loupé le coche, mais c'est pas si vieux que ça. Toujours est-il que je vais vous parler de quelque chose d'autre que j'ai choisi de changer. Du coup, j'ai choisi de changer mon kiff en début de semaine en découvrant un truc que j'ai kiffé plus, ou en tout cas qui était plus actuel. Et ce kiff, c'est Banks, la chanteuse Banks, qui du coup faisait un concert à l'Olympia. Absolument
Banksy.
Pas, non, parce que ça c'est Banksy. Mm-hmm. Et du coup, c'est voilà. Donc, c'est
rien à voir avec Azealia Banks.
Absolument. Alors, ça fait partie de la blague. Figure-toi que du coup, donc, j'ai été voir au concert.
Est-ce que mon rôle dans Laisse-moi kiffer, c'est de gâcher toutes tes blagues en avance ?
A priori, aujourd'hui, oui.
Incroyable.
On est sur un pattern.
Je vais arrêter de parler. Désolée d'avoir gâché toutes les vannes de Mathis.
Non, du coup, le truc, c'est que, bon, moi j'ai été la voir en sachant à quoi m'attendre. Donc, c'était à l'Olympia mardi soir. qui est donc une salle dans un endroit de l'enfer qui s'appelle Opéra à Paris.
Et tout est cher. Pour aucune raison.
Ouais. C'est super l'Olympia. Pardon.
Non mais alors la salle est très chouette, mais tu sors globalement, tout le monde est habillé en mode Startup Nation et crie très fort en buvant des bières chères, ça, c'est un peu l'enfer. Bref, toujours est-il que du coup j'ai été la voir en écoutant pas mal ce qu'elle avait fait, et notamment pas mal son dernier album qui s'appelle Serpentine, qui est sorti en avril dernier. Et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure du concert que je connaissais finalement quasiment tout ce qu'elle faisait, c'est juste qu'à chaque fois qu'elle annonçait un titre je faisais ah non je connais pas, elle faisait ah celle-là c'est pour les gens qui sont là depuis le début, je faisais ouais voilà je suis rejeté, et puis elle commence à chanter, je suis ah bah en fait si.
Le mec râle par principe et en fait il est là. Mais oui, je la connais, super.
Et du coup, au bout de quelques secondes de concert, j'ai vu mon ex et j'étais en mode ah. Et j'étais très surpris parce que, bon, autant on s'entend bien, j'étais un peu en mode, a priori, il écoute pas du Banks. Et en fait, du coup, j'ai envoyé un message après en mode, d'où ? Et en fait, il est parti au bout de 5 morceaux. Donc, je me suis dit, en effet, ça lui plaît pas. Donc,
mais alors, je suis désolée, j'ai déjà parlé beaucoup dans Laisse-moi kiffer du fait que j'aime pas les concerts et tout, mais je comprends pas la démarche. Tu vas à un concert, donc tu payes.
Pas cher.
T'attends.
Il y avait des places, en fait, qui ont été lâchées au dernier moment à 1,75, je crois, juste les frais de réservation.
1,75
okay. Ouais.
Ouais, c'est peu. Vraiment.
Non, okay. Mais la vérité, c'est qu'elle a pas rempli. Hein. C'est
au-delà du prix. C'est ça. Tu attends. Mais... Genre, si le temps, c'est de l'argent. Mm-hmm. Un concert, ça coûte cher parce que tu attends. On a déjà parlé des problèmes de et première partie et tout.
À
mais
perdre.
Tu attends quand même. Genre, t'arrives à 19h, il y a rien qui se passe avant 20h30, tu vois.
Mais non, tu viens au moment. Enfin, moi, j'ai pas vu la première partie. Désolé, Maeve, je crois que c'était ça la première partie. J'ai bu un verre avant et puis bah, je suis arrivé pile au moment où ça a commencé. Les gens criaient,
moi,
c'est que moi.
Des concerts, tu sais, je fais la queue dehors et tout, là. Mais parce que les gens, ils veulent être bien placés. Et moi, je fais 1m12 aussi.
Ah,
peut-être
oui,
qu'on n'a pas les mêmes problématiques de concert qui est que pour moi. Alors, moi, je fais 1m58. Mathis, tu fais un peu.
1m82.
Voilà. Pour moi, voir la scène. C'est un investissement de temps, pour toi c'est à peu près garanti.
Oui.
Du coup, je comprends pas le délire d'aller à un concert où tu sais pas si tu vas bien aimer, au bout de 5 morceaux tu fais ah non j'aime pas, je vais faire autre chose.
Bah, ce qui s'est passé.
Pour moi c'est comme si tu me disais il a été au ciné,
il pensait
pas
qu'il allait
voir, il a vu le film à la moitié, il a fait ah non c'est chiant j'y vais, je suis là, ça, enfin, ça arrive mais wow.
Dans sa tête il allait voir Azealia Banks.
Ah, il s'est fait eu.
Qui est du coup une rappeuse américaine assez problématique.
Qui coûte un peu plus cher que 1,75€ la place aussi, je pense. Il aurait dû avoir la puce à l'oreille de... Putain, c'est pas cher pour Azealia Banks. Même si elle est problématique, c'est pas cher.
Absolument. Toujours est-il que c'était pas ça, c'était Banks. Et du coup, en plus, tout à l'heure, j'ai fait des petites recherches en mode... Ah, je profite d'avoir un tout petit moment pour faire des recherches. Ouais, elle est née en Angleterre. Et après, j'ai compris que je regardais la page d'un mec qui s'appelait Gordon Banks, qui avait rien à voir et qui était lié à Sheffield.
Cette personne devrait changer de nom d'artiste pour le SEO, juste pour le référent. Franchement, ça a l'air de
tout
très
le monde
mal
s'appelle
se passer.
Pareil, c'est terrible. Et donc j'ai vu que bon, elle était certes très sympathique, mais qu'elle était née aux États-Unis, ce qui est pas grave, ça arrive à des gens très bien.
C'est vrai.
J'ai pas d'exemple en tête, mais ça arrive certainement à des gens très bien.
Un voilà. Exemple chez vous.
Super.
Ouais, j'aime bien.
Ouais, je vois tes petits likes sur l'Instagram de l'IPS. À chaque fois que j'y vais, je vois liké par Anthony Vincent et pas mal d'autres personnes.
Et voilà. Et du coup, mon kiff, c'est, c'était son concert parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à rien. Dans le sens où je suis content de l'écouter parce que ça s'ancre bien dans certains moods que je vais avoir. C'est un électro teinté de un peu R&B, mais c'est un peu des mélanges d'influences. C'est assez mélancolique, c'est assez dark, mais je trouve ça très chouette. Et du coup, j'allais le voir en live sans attendre quoi que ce soit. Juste, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un concert hors festival parce que la personne au début avait raison. Je suis quand même très souvent en festival, notamment cet été. Et en fait, j'ai été très très agréablement surpris déjà parce que moi je considère qu'il y a plein de façons de faire un bon concert. Ça dépend vraiment des artistes. Tu peux pas attendre la même chose de Cardi B que de Benabar, tu vois, tu vas pas voir la même chose.
Alors tu peux, mais j'ai pas raison. Ok, est-ce que je préfère voir Cardi B qui fait du Benabar ou Benabar qui fait du Cardi B ? En vrai, je pense que je préfère voir Cardi B qui fait du Benabar,
pareil.
Qui est vraiment genre en jeans Célio et en t-shirt et qui est là, oh là là, trop chiant de sortir, on s'en fout, on
y va
pas.
Je veux pas y aller à
tout.
Ce dîner, ouais. Oh putain, je demande à voir ça. Ou un duo. Bon, on peut faire ça.
Tout à fait, tu sais, en mode taratata et tout, genre les feats improbables. Avec Nagui qui est content. Bref. Vous l'avez dans votre tête. C'est super dans notre tête. Peut-être qu'un jour ça prendra réalité, mais je pense pas.
Toujours est-il que du coup, voilà, je trouve qu'il y a plein de manières de réussir un concert. Tu peux faire un truc très intimiste où tu discutes vachement avec les gens. Tu peux faire un truc très contrôle freak avec des animations où c'est millimétré, machin et tout. Et moi, je trouve que c'est ok. Enfin, tu te reconnais dans différents trucs. Il y a des gens qui sont plus sensibles à certains trucs. Moi, typiquement, je suis très habitué aux concerts d'électro. J'avais parlé de Moderat. Typiquement, Moderat, c'est on n'a pas tapé la discute, tu vois, c'est un DJ set, donc ça enchaîne les morceaux. Mais là où j'ai trouvé que c'était un bon concert, c'est que justement les transitions étaient malines, qu'ils avaient lâché des petits gimmicks avant en mode teasing. Bref, je vais pas vous refaire mon clip sur Moderat. Et là, Banks, elle a fait un truc qui est du coup pour moi une règle qui s'applique à tous les concerts, c'est bien réussir son début. Et ça, c'est loin d'être acté pour plein d'artistes. Et là, dans les festivals que j'ai pu faire cet été, je me suis vraiment rendu compte qu'il y en avait plein qui rentraient en mode Ah, salut, c'est Michel. Enfin, je suis...
Bonjour.
Bah non, enfin, je sais pas faire un truc, tu vois. Enfin, ça me touche faut qu'on trop s'en
les
rappelle, tu vois.
Musicaux qui sont timides, tu vois. Parce non, que mais... je me dis, ouais, t'es un peu obligé oui. de faire de la scène. Mais ça se voit que t'as pas envie, c'est dur quoi. On avait reçu il y a longtemps chez Emma de Asger, qui est un chanteur ouais. islandais.
Ah, mais Asger, il est trop
cool.
C'est
toute douce,
c'est magnifique,
tout. C'est
trop
beau. Mais alors, le gars, à l'époque, on faisait des sessions acoustiques dans les anciens bureaux de Mademoiselle en vidéo. Et il est arrivé et c'était vraiment, mais c'était pas un caprice de star, c'était il faut qu'il y ait vraiment personne dans la pièce à part la personne qui filme. Genre, même la contact mad qu'il avait invité et qui était fan de lui, c'était genre, désolé, mais tu peux pas être là quand il joue. Et vraiment, il était en mode, je déteste cette interaction. Et après, il avait un concert où, du coup, on a été avec plusieurs collègues. Et vraiment, le mec, il arrive sur scène, il est là. C'est top de partager ma musique avec vous, mais c'est un peu compliqué pour moi d'être là. Et après, il prend sa guitare ou son piano, je sais plus, et il limite ferme les yeux, il est là. Je vais vibrer dans votre coin, mais on est ensemble, mais de loin, quoi. Et j'étais trop touchée de... T'aimes tellement ta musique que tu te forces à faire cet exercice qui est hyper dur pour toi, quoi.
Bah, financièrement, t'as pas le choix, de toute façon, mais...
Aussi.
Bah, du coup, Asger, pour le coup, je vous conseille, au passage, Underneath It, qui est une chanson magnifique, qui m'avait matrixé la gueule à l'époque, parce que le refrain est un espèce de twist magistral dans l'enchaînement des accords et tout. Enfin, c'est génial. Je vous mettrai un petit extrait là, au moment où j'en parle. Mais du coup, ouais, bah, typiquement, j'ai vu des artistes timides sur scène qui géraient pas le truc. Genre, j'ai vu James Blake plusieurs fois. À chaque fois, c'était très mauvais. Et Dieu sait que j'adore James Blake. J'adore tout ce qu'il fait. Mais vraiment, à chaque fois que je le vois en live, je suis en mode, franchement, non. En plus, il arrive avec une combi verte. Il ressemble à un haricot vert. C'était un enfer.
Dis le mec en salopette quand même.
Bah quoi, mais très bien ma salopette.
Bah, elle est super ta salopette. Mais je pense que sa combi était peut-être super aussi.
Non, c'était pas très beau. Mais, mais j'aime beaucoup James. On t'embrasse, petit LM Crado.
Hi James.
Mais par contre, il y a un moyen, je trouve, de contrer la timidité qui, je pense, était le cas de Banks, honnêtement.
C'est une grande timidité.
Exactement.
Je suis un grand fan de la première.
Et ben, justement, elle a fait un live où le début était très control freak. Elle s'est détendue au fur et à mesure. Mais moi, je suis totalement OK avec le fait qu'un artiste paramètre même ses regards, ses interactions et tout dans les débuts de son live. Tant que tout est bien foutu. Et là, il y avait t'as les deux danseuses, t'as des backtracks qui sont assez fortes au début et tout. Donc j'étais en mode OK, la meuf a tout chorégraphié, a tout pensé, elle sait exactement où elle va, mais je m'en branle parce que c'est bien fait. Et la meuf réussit à faire son entrée. En tout cas, je me souviens de quelle chanson elle a fait en entrée, je me souviens de comment elle l'a fait, je me souviens d'où elle s'est placée. Et en fait,
et en soi, si tu sais que t'es pas bonne pour improviser parce que t'es stressée, bah autant pas te mettre dans la position d'improviser.
Exactement.
Et dire, OK, bah l'entrée, on va la créer, on va la timer, on va la répéter. Et du coup, il y a moins de risques de la rater puisqu'on sait ce qu'on
va faire. Exactement. Et je suis très intéressé par l'idée de vraiment questionner la scénographie avant, c'est-à-dire avoir vraiment un espèce de dispositif pour le live et pas le prendre pour un truc en mode bah de toute façon c'est un concert, on met un micro, deux trucs et tout, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles en vérité. Et là, elle a fait un truc qui était tout con et qu'on voit souvent dans les lives, typiquement qui était le cas aussi pour Yel, c'est il y avait un espèce de petit escalier qui sert un peu de plateforme. Enfin, c'est plus haut qu'un escalier. Mais en gros, ça permet de jouer avec les reliefs, les volumes. Ça permet aussi de s'asseoir sur certains morceaux, de poser les choses. Ça permet de faire des vrais trucs badass en mode waouh, une queen au sommet de la pyramide. Et typiquement, ce genre de petits trucs, bah, c'est les petites trouvailles qui ont fait que je trouve ce concert tenait la route, tenait le rythme. La tracklist aussi était très très bien foutue parce que je pense que je sais pas si le dernier album est un succès commercial. Je sais que moi, dans les retours que j'ai, tout le monde déteste ou les gens l'aiment beaucoup moins. Et je vois Anthony hocher la tête.
Il a un petit regard shady, donc apparemment, dernier album n'a pas convaincu les fans.
Moi,
de la première.
Je trouve que c'est un album qui est très hétérogène, mais dans lequel il y a vraiment des très bonnes choses. En tout cas, moi, des choses qui m'ont beaucoup touché et que j'ai pas forcément cherché à analyser plus loin. Juste, voilà, c'est de la bonne pop, je trouve. Et par contre, elle a mélangé ça vachement avec, du coup, ses anciens albums, etc. Et ça se mêlait vachement bien. Et les gens étaient très contents, évidemment, de les entendre. Et typiquement, ouais, pareil, un autre truc que j'ai trouvé ingénieux, c'est qu'elle avait des chansons plus solo, plus piano-voix. Moi, les piano-voix, genre, dans les concerts, c'est vraiment un moment qui me fait chier. C'est pas le moment qui me touche le plus en général. Ouais, je suis désolé.
Moi, c'est ma passion.
J'adore.
Je suis désolé, voilà.
Petit cœur qui bat, Mathis.
Mais ouais, en plus, je suis très sensible en concert, je pleure facilement, mais le piano-voix, en fait, je pense que j'ai tellement vu l'exercice, vu et revu, que s'il n'y a pas un tout petit truc, en plus, bah... Mais... Et là, okay. Le petit truc en plus, c'était à la fois de foutre les lumières en mode super intimiste, ce qui fait qu'on voyait plus les gens autour de nous et on avait l'impression qu'elle chantait juste pour nous. C'était la mini intro avant où elle explique qu'il y a certaines chansons qu'elle chante quasiment jamais en live parce que quand elle les écrit, elle arrive même pas à les penser pour la scène. Parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que c'est aussi une productrice de ses chansons. Elle fait pas que les écrire et les interpréter. C'est aussi elle qui touche aux prods. Et comme c'est des prods très électro, elle disait que dès le début, elle pensait au live, elle pensait au dispositif scénique. Et je trouve ça intéressant. Et elle dit, c'est là, j'arrive pas. Je les écris en piano voix et j'arrive pas à passer à autre chose. Mais en fait, le petit twist qu'elle a apporté, c'est qu'il y avait, elle avait un mec au synthé derrière qui accompagnait avec une basse, donc un truc un peu sourd derrière. Et en fait, là, tout de suite, les basses dans les salles de concert, ça vibre. Donc, du coup, t'as ça dans le ventre. Et alors là, tout d'un coup, t'as un piano voix en effet, mais t'as une toute petite ligne de basse qui, moi, a fait la grosse différence et qui fait que j'ai chialé ma race, évidemment. Comme il n'y a pas, heureusement, je n'étais pas maquillée.
Like you do.
Mais, like
remercie,
I do.
Merci, les basses.
Ouais. En vérité, moi, il ne faut pas me demander où je suis. Quand on ne sait pas où je suis, c'est me demander où je pleure actuellement. Et ça marche toujours.
Envie de faire comme le truc qui suit l'avion de Bernard Arnault, mais where is Mathis crying?
Les
right
larmes
now
de Mathis. Donc voilà, j'ai passé une très bonne soirée, un très bon concert. Aussi parce que je pense que j'avais pas de comparatif. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était décevant par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais moi, je suis un nouveau, je suis un newbie. Donc j'ai découvert tout ce qu'elle avait fait récemment. Donc je suis juste très content. Enfin, je l'écoute depuis des années, mais sans le savoir. Et là, c'est que nouveau que je m'intéresse vraiment à la personne, au projet autour, à ce qu'elle a à dire, même visuellement. Et je trouve que c'est un projet qui est super intéressant. Voilà.
Est-ce que, alors, toi ou Anthony, alors peut-être vous n'avez pas le même, est-ce que vous avez une reco d'un morceau ou deux pour qui veut commencer à découvrir Manx? Est-ce qu'il y a soit des morceaux hyper représentatifs de ce qu'elle fait, soit des trucs où vous êtes là, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur son?
Anthony, peut-être t'en as un si tu la suis depuis.
Ça dépend de ce que vous aimez, si vous êtes plutôt team électro, un peu comme Mathis.
Le mec était tellement ready, il était là, ok, alors on a 8 hypothèses non, différentes, choisissez votre signe astrologique et en fonction, il y a un morceau.
Let's ou go. Davantage team R&B, parce que ses débuts étaient beaucoup plus R&B. Elle était aussi produite par Sone, qui est un producteur plutôt R&B, mais il fait des trucs magnifiques. Enfin, ensemble, ils ont fait des morceaux magnifiques. L'EP à London est très très bien à ce niveau-là. Mais.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Un seul morceau, c'est difficile, mais je pense que... En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup commenté son songwriting, et je trouve que ses textes vraiment, vraiment magnifiques, et je pense que je recommanderais... Gemini Feed qui est très très bien, et le texte est aussi bien que la musique, la prod et tout, et là-dessus elle dit des trucs hyper intéressants sur le fait justement que c'est une grande timide, qu'elle est plutôt introvertie et qu'elle a remarqué, c'est très subtil dans le texte, mais quand elle le commente, elle l'explique, que en général dans la vie, en amour en particulier, on a tous et toutes une part de narcissisme et une part d'empathie, et notre partenaire va soit flatter l'une ou l'autre de ces facettes. Et il y a une dynamique qui peut être très addictive, c'est un empathique avec un narcissique, ou une empathique avec une narcissique, etc. Et moi, je sais par exemple que je suis attiré par des narcissiques tout le temps, et ils flattent mon empathie, et ça fait toujours des dynamiques. Je suis l'infirmier et l'autre est ma star.
Ouais, ça devient vite un peu pété comme
dynamique.
Ça
peut être
quoi.
Un peu toxique, ouais.
Mais on comprend ce qui vous attire l'un vers l'autre à la base.
Ouais, du coup, là, elle en parlait aussi autour de cette chanson-là, et je trouve qu'elle est vraiment géniale, cette chanson. Et elle est pas trop triste alors que le texte est ouf, et vraiment ça a été la chanson la plus écoutée de mon iPhone pendant très très longtemps.
Ça allait bien pendant cette période, tu dirais que c'était lourd.
Non, franchement, ça allait bien, hein, mais vraiment son album Three, et c'est vraiment son meilleur album, je pense, à mes yeux en tout cas. Ouais. Et c'est vraiment un album narratif, comme on en fait de moins en moins à cause des plateformes de streaming.
J'aime trop les albums narratifs. Ça me manque, les albums incroyables. Une histoire d'un bout à l'autre.
C'est
tout.
Ça. Enfin, ça commence.
Je sais pas, j'imagine que ça se fait encore, mais je suis plus très à jour sur la musique. Mais quand j'étais ado, j'aimais trop.
Ouais, il y a vraiment un début et une fin. Et même, enfin, si vous lisez les textes autour de. Enfin, elle qui commente ses paroles, c'est extraordinaire. Il y a une chanson où y a un début de refrain qui a été écrit par son ex. Elle a écrit autour. C'est Godless. Et c'est vraiment extraordinaire comme texte aussi. Et du coup, ouais, tout l'album 3, en particulier Stroke, qui est ma préférée, où elle parle justement de narcissique et d'empathie. Et Gemini Feed, elle en parlait aussi déjà avant, sur l'album d'avant. Mais voilà, Stroke et Gemini Feed.
Très bien. Petite question, tu parles de Sone. Est-ce que c'est Sone, S-O-H-N?
Oui.
Ok, très drôle parce que du coup, j'étais pas du tout au courant. J'écoute Sone depuis super longtemps, ou Zone, je ne sais pas. Et pour le coup, je trouvais que dans les prods, il y avait des similitudes. Et j'ai fait une story parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent Banks et je trouve qu'il y a pas mal d'artistes que moi j'écoute qui sont assez cohérents. Enfin, j'écoute beaucoup de choses qui se ressemblent, on va dire, dans les productions, etc. Et du coup, j'avais recommandé notamment Lessons de Sone qui était vachement proche, je trouvais, de l'univers de Banks. Simplement, c'est pas du tout la même façon de poser sa voix dessus. Et puis elle, elle arrive, c'est une diva, c'est la star américaine, il y a les chorés machin et tout. Sone, je suis pas sûr que ce soit le genre de concert.
Ouais, sûrement, effectivement. En tout cas, ça n'a pas toujours été une diva.
Non, j'en doute pas. Surtout si c'est une timide.
Ouais, voilà, c'est une persona qu'elle prend depuis peu et ça plaît ou ça plaît pas. Il y a aussi des covers géniales qu'elle a faites qui permettent aussi de mieux sentir sa vibe R&B. Nana de Trey Songz, qui est hyper surprenante de sa part. Et aussi une reprise de The Weeknd dont elle faisait les premières parties.
Oui.
Qui est extraordinaire et que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, je vous la recommande aussi. Et il y a aussi Are You That Somebody de Aaliyah qu'elle a repris. Bref, je m'égare. Écoutez tout Banks.
On vous mettra son Spotify dans la description et puis vous allez tout écouter.
Voilà. Oui, voilà. Moi, je suis plus team premier album que le dernier. Mais voilà.
Tu es team un peu déçu.
Il en faut pour tous les goûts. Oui. Je suis archi déçu, ouais. Mais
Mathis, t'as un morceau, toi, à recommander ou
moi, dans
la discographie, ça fonctionne.
Dans le dernier album, j'aime beaucoup The Devil. Je la trouve très, très efficace. Mais en fait, je l'ai beaucoup écouté en entier, cet album aussi, pour le coup. Et je me souviens d'avoir beaucoup écouté juste avant de partir de mon appart dans le 15e. Mm-hmm. Donc à une époque où j'allais vraisemblablement mal, parce que le 15e.
Oui.
Non, j'abuse, mais je me souviens d'avoir beaucoup écouté en balade au Rubis et j'écoutais l'album en entier et j'arrivais chez moi et je disais ah oui quand même ça fait 50 minutes que je marche.
Ouais.
Mais voilà, ça s'écoute très bien. Donc écoutez tout l'album, mais en effet le 3e est meilleur parce que du coup après je me suis lassé d'avoir juste écouté le dernier et j'ai remonté le feed.
Tout à fait.
Voilà. Mais j'ai passé un très très bon moment et je finis peut-être là-dessus, mais oui. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de gens heureux dans la même salle et ça fait juste du bien.
Oh,
et du coup, mon petit cœur guimauve, je me retournais, j'étais en mode le monde est gay, le monde est beau, c'est formidable.
Mais quand le retour des gros stuff, mademoiselle, pour voir plein de gens heureux dans une pièce.
Bah ça.
Je suis allée faire du forcing auprès de la direction.
Well.
On espère. Merci pour ce kiff, Mathis.
Merci.
Sofia. C'est quoi le premier kiff du reste de ta vie ?
Eh bien, écoute, alors je tiens à dire déjà que ce kiff a un rapport avec ma vie actuelle, en général, mais je vais parler d'un manga que certainement plein de personnes connaissent déjà, si vous connaissez un petit peu les mangas, mais c'est pas grave.
On est mainstream, on est dans...
Voilà.
Il n'y a pas de problème.
Eh bien, je lis Nana en ce moment. Voilà.
Passion.
Ah. Let's go. Je viens de commencer. Enfin, il y a vraiment un mois. Bah, en fait, en même temps que mon arrivée à Paris. Et ça fait un peu le parallèle avec. Donc, si vous connaissez pas Nana, je vais un petit peu introduire. Mais voilà, Nana, c'est l'histoire de deux nanas, justement, de deux filles qui s'appellent toutes les deux Nana et qui arrivent. Oui, dis-moi.
Garde ton micro, je pense. Enfin, dis-moi, Mathis.
Pardon, effectivement. Ouais. Qui arrivent sur Tokyo. Voilà.
La grande ville.
Elles arrivent sur Tokyo.
Tu vois, là, avec Shizu, quoi. Ouais, je monte sur Tokyo, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, un petit peu de la même manière que moi, j'arrive sur Paris, tu vois, avec... voilà, c'est ça, avec plein de choses nouvelles dans leur vie, que ce soit la musique, les rencontres, les gens, le travail, tout,
les
garçons, effectivement, les passions amoureuses, les déceptions ou non, et j'adore, et ça fait un gros parallèle avec ma vie actuelle.
Est-ce que t'as une coloc qui a le même prénom que
non,
toi,
je n'ai
l'inverse total de toi.
Mon prénom est déjà très rare, donc déjà, voilà.
De Sofia, j'avoue,
voilà.
C'est rare.
Voilà, j'ai une cousine qui s'appelle Sofia, mais bon, je veux pas qu'on habite ensemble. Je t'aime, mais voilà. Et non, en fait, c'est même pas le fait d'être en coloc ou quoi, c'est vraiment le fait de les rencontres avec les gens, les trucs un peu amoureux, tout ça, le travail.
Un manga jeune adulte qui commence sa vie indépendante à la grande ville et qui est paumé à plein de niveaux et qui doit trouver un taf et il y a tout un truc de on décore l'appart et elles achètent des verres avec des fraises et tout machin.
Ouais, exactement, j'ai grave envie d'avoir un verre avec des fraises, mais vraiment
achète un double verre avec des fraises et c'est
mais avec grand plaisir, mais vraiment je vous inviterai. Mais non et vraiment j'adore Nana et puis le côté un peu mode qu'il y a avec Vivienne Westwood qui revient beaucoup qui est passe en tout cas pour l'instant, là où j'en suis, elle n'est pas citée. Je ne sais pas si elle sera citée plus tard, mais voilà. J'adore.
Je sais plus si l'autrice, donc Ayazawa, cite clairement les inspirations mode, mais effectivement, donc il y a deux nanas. Il y a une nana plutôt punk et une nana plutôt cute.
Exactement.
Et la plutôt punk est très très Vivienne Westwood. C'est un manga des années fin 2000, donc. Ouais. On est sur une mode punk goth qui, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais là « Waouh, elle est trop cool !» Et elle, elle a toute une bande de potes qui sont dans un groupe de rock, cette nana-là, et qui sont tous et toutes hyper sapées, et c'est très, très Vivienne Westwood. Et Ayazawa avait fait un autre manga qui s'appelle Paradise Kiss, qui était très sur la mode, et déjà très sur les inspirations mode, notamment punk anglaise. Donc, même moi qui connais rien à la mode, je sais qui est Vivienne Westwood grâce à Nana, littéralement. C'est comme ça que j'ai appris. Donc, je sais pas si elle est citée, mais... L'influence est très claire.
Il y a un article de Mademoiselle, écrit par mes soins, qui pointe les références de Vivienne Westwood dans Nana, notamment le collier qui est très à la mode là depuis 2-3 ans sur TikTok et ailleurs.
Un peu astrolabe là, enfin, j'imagine qu'il
y a un c'est ça, l'orbe logo de Vivienne Westwood avec des perles autour que porte justement une des héroïnes dans l'un des tomes. Et aussi, il y a d'autres clins d'œil vraiment explicites à des looks complets de Vivienne Westwood dans Nana. Et voilà, moi j'avais même le collier cadenas de Rennes pendant des années.
Je veux grave me l'acheter.
À la fac.
Let's go. En tout cas, pas forcément celui-ci, mais juste une pièce Vivienne Westwood, un bijou, n'importe quoi. Je suis devenue fan, vraiment. Je mettrais tout mon argent dedans s'il le fallait.
Ça va te coûter pas mal d'argent.
Effectivement.
Après, Anthony Vincent a probablement des bons plans pour choper du Vivienne Westwood sans éclater tout ton budget par exemple.
Et ça, c'est très intéressant.
Moi j'ai les bons plans bière pas chers. J'ai pas les bons plans Vivienne Westwood.
C'est très intéressant aussi.
Moi je suis là. Je vais bien.
Toi, t'as les bons plans concert à 1,75€, donc c'est bien.
Oui,
c'est
effectivement. Voilà. Mais ça, on apprécie aussi.
Que tout le monde fuit.
Juste ton ex.
Mais voilà, et du coup, j'aime beaucoup. Et en plus, on a fait, il n'y a pas longtemps, sur YouTube et Insta, un street style avec Lilix, qui porte justement une tenue inspirée de Nana. Et voilà, et j'adore. Et en fait, on a eu un grave bon feeling, d'ailleurs, avec Lilix. Elle était trop mignonne, voilà, si tu passes par là, t'étais grave mimes, vraiment.
Big up.
Big up. Et non, elle était trop mimes, si vous voulez aller voir cette vidéo, vraiment.
C'est dans les notes du podcast.
Exactement.
Tout à fait. Allez la voir.
Ouais, c'est très mignon, j'ai participé à ce tournage, donc voilà.
Donc il est super.
Donc il est super, effectivement, c'est ça, on peut le dire. Et j'ai un gros coup de cœur en ce moment pour Nana, je le lis tous les matins et tous les soirs dans le métro. Voilà, vraiment, je l'ai toujours avec moi.
Alors fais gaffe, parce que je sais pas où t'en es, et je sais pas c'est quoi ton niveau d'émotivité. Moi je suis une personne qui, surtout à l'époque où je disais Nana il y a quelques années, j'étais moins en phase avec mes émotions et la vulnérabilité, et je me suis quand même retrouvée à chialax à cause de ce putain de manga. Donc si je l'avais lu dans les transports en commun, j'aurais pas aimé à l'époque l'expérience de pleurer en public. Donc le matin et le soir dans le métro, c'est super, mais tu vas peut-être avoir des matins et des soirs où tu vas arriver au taf en mode...
Ouais, mais ça ne me dérange pas de... Déjà, je suis un peu comme Mathis, je pleure tout le temps.
Okay.
J'ai cru comprendre en tout cas qu'il pleurait souvent. Et voilà, donc ça ne me dérange pas. Enfin, j'ai déjà pleuré en public. La dernière fois que j'ai pleuré en public, c'était dans le train pour aller chez ma grand-mère.
C'est génial, c'est très main character, on adore.
Non mais vraiment, et en fait j'ai écouté le dernier album de Chiran en revenant du concert.
Ah non.
Et du coup j'ai pleuré parce que vraiment j'étais tellement émue de l'avoir vu et je l'adore ce mec, enfin j'adore ses chansons et tout, et du coup ben, vraiment j'étais si émue, et en revenant dans le train je l'écoutais et je pleurais, j'étais trop émue du concert et tout, enfin voilà. Et je pleurais, enfin voilà, je sais pas si je pleurais de joie ou de tristesse parce qu'il y avait plein de changements.
Pleurer des émotions, ok.
Voilà, exactement. Je pleurais tout ce que j'avais à pleurer quoi. Donc voilà, je pense que, c'est tout pour mon kiff. Voilà. Ah oui, je voulais rajouter une petite chose. Le truc, c'est que c'est le premier manga que je lis. Je regarde beaucoup d'animés, mais je lis très peu de mangas. Je lis en général, mais pas de mangas. Et j'aime beaucoup Nana dans le sens où c'est pas un shonen. D'habitude, je regarde des shonen, quoi. Typiquement, SNK.
Pour le point contexte, les shonen, c'est les mangas et les animés qui s'adressent plutôt aux garçons et aux jeunes hommes et aux garçons adolescents. Si vous voulez un shonen très connu, Dragon Ball Z par exemple est un shonen.
Voilà.
Il y a les shoujo qui s'adressent plutôt aux filles, et je pense que Nana se classe dans le genre shoujo, parce que ça doit être plutôt à des jeunes filles et jeunes femmes. Et après, il y a un autre terme pour les trucs plus adultes que j'ai oublié. Les trucs un peu. Genre le terme pour dire c'est des mangas pas spécialement pour les ados, jeunes adultes.
C'est pas les seinen.
Seinen.
Ouais. Wow.
Et bien... Vous êtes les mêmes personnes, c'est insupportable.
On est la même personne, je pense qu'on va bien s'entendre.
Je pense, effectivement.
J'ai appris à être Chiran aussi.
C'est vrai ?
Oui.
T'étais au concert ?
J'écoute genre... Non, je vais pas au concert, calmons-nous. Ah, mais j'écoute genre pas de musique. Calmons-nous. On en revient à C'est très cher, faut attendre très longtemps. On voit le mec moins bien que sur YouTube. Et par contre, je sais que Chiran a la réputation, tu me diras, c'est toujours le cas, de... d'engueuler un peu les gens qui chantent à ses concerts en disant en fait chacun son métier.
Comme Lord.
Mais j'ai une pote qui l'a vu plusieurs fois et c'est une réputation qu'il avait à un moment de... Lui il fait des concerts mais il est là en mode c'est mon métier de chanter, votre métier c'est peut-être éventuellement applaudir, mais voilà chacun fait son truc, merci de ne pas chanter pendant. Ce que j'aime bien comme énergie un peu connard, tu vois, j'aime bien.
Ed Sheeran, il fait
ouais.
ça
ouais.
Ah non, bah.
Mais Ed Sheeran n'est pas considéré comme quelqu'un de spécialement chaleureux ou sympa okay. comme artiste, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on lui demande. Il est pas méchant, mais il est pas. Voilà.
Bah, tu
et
vois,
il y a plusieurs concerts où il était en mode non merci. Tout le, bah, le, l'aspect cas, participatif, c'est non. Hein, c'est,
ouais. Je suis allée le voir deux fois, et les deux fois, il était, ma foi, très sympa. Très sympathique, merci, voilà. On t'embrasse, encore une fois. On embrasse beaucoup de gens dans ce podcast.
Il y a beaucoup de l'aime crado, hein, c'est pas notre faute. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, tu sais.
Mais oui, hi Ed. Du coup, tu disais que t'aimes bien Nana parce que pour une fois, c'est pas un shonen. Donc exactement. Les animés que t'as regardés, c'est plutôt des shonen.
Ouais,
des
bah je...
Plutôt pas à destination spécifiquement des filles, on va dire.
Voilà, exactement.
Et pas trop avec des héroïnes, du coup, j'imagine aussi.
Voilà, pas, non, pas vraiment d'héroïnes. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup parce que du coup, on peut beaucoup plus s'identifier. Et je m'identifie... aux deux nanas, c'est un peu marrant parce que j'ai le côté très fleur bleue, très machin de Hachi, du coup, qui est la nana un petit peu
cute,
exactement, et le côté un peu fort, je montre pas trop mes émotions de nana, la nana punk, du coup. J'ai un peu ces deux côtés-là, selon les moods, mais bon, en ce moment, je suis plus Hachi cute.
C'est très bien.
Voilà. Donc, voilà, lisez Nana, ça fait plaisir, c'est très mignon, c'est très beau. Et ça ressemble beaucoup à la vraie vie, notamment la vie des jeunes personnes, j'ai envie de dire.
Oui,
voilà.
Plein d'émotions.
J'ai adoré ce manga aussi quand je l'ai lu quand j'étais ado. Et je trouve que c'est l'une des plus belles histoires d'amitié que j'ai lues de ma vie, en fait.
Oui.
Leur relation, elle est complexe.
Très belle amitié féminine, ouais.
Ouais, d'ouf. Elle évolue aussi. Enfin, elle est vivante, elle est dynamique. Et elle te questionne aussi.
Dans mon souvenir, il y a de l'ambiguïté aussi. Des
oui.
fois, on se dit... Elle,
oui,
exactement. Elles se prennent la tête.
Mais c'est ça qu'on adore.
Des gars, peut-être que la solution à leur problème est... en phase belle,
oui,
elles
oui.
dorment dans le même lit souvent et tout, j'étais là bon.
La solution c'est toujours le lesbianisme politique, mais bref, c'est une autre question.
Cependant, du coup, je sais pas si tu sais, mais je vais te le dire parce qu'il faut que tu le saches.
C'est
est-ce que
fini.
Tu sais que Nana c'est pas fini et que ça
oui.
finira peut-être jamais?
Oui, je okay. sais, je sais. Et bon.
Ça vraiment le dernier tome c'est un cliffhanger de connard, genre, vraiment c'est
oh
du
non,
quoi. C'est,
oh non,
c'est Game of Thrones, tu vois, mais moi j'adore Game of Thrones, même c'est pas fini.
Je ne supporte pas les cliffhangers, vraiment c'est...
Dis-toi que c'est le voyage qui compte et pas la destination.
Exactement, hein. on va s'en tenir à ça. Ça, ouais. ça me va.
Alors, à la décharge de l'autrice, c'est parce qu'elle était très malade pendant longtemps et il me
ah,
semble qu'elle est toujours pas en forme. Donc, il y a jamais de reproche à faire. Genre, Jean-Gérard oui. Martin, il est pas malade, mais il fait sa vie, je m'en fous. Je vais pas lui reprocher Game of Thrones de pas l'avoir fini. Mais Ayazawa, en plus, avait quand même le fait de subir le fait de ne pas finir Nana. Mais il y a pas d'infos sur Nana va finir un jour. Elle n'est pas décédée, mais on est en stand-by depuis maintenant, je pense, un bon 15 ans.
Ah, yes.
T'attends pas trop à une résolution, quoi. On est
non,
là
on est pas
pour
sur une
l'aventure.
Okay.
Ok.
Ouais, ouais, non, elle était bien, bien malade.
D'accord,
et puis,
okay.
bah, depuis, je crois qu'elle va mieux, mais il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de nouveau Nana. Si on a un,
okay.
ce serait incroyable. Peut-être un jour.
Ah ouais, non, mais
enjoy déjà... le chemin tant que tu y es, c'est un très beau chemin.
Voilà, c'est ça. Mais déjà que quand j'ai regardé, bon, je vais faire le parallèle avec l'Attaque des Titans qui n'a absolument rien à voir, mais.
deux propositions très différentes, quand même.
Voilà. Mais en fait, bon, si vous regardez, vous savez très bien que. On attend la fin de l'animé depuis des années et moi je n'en peux plus, enfin vraiment je n'en peux plus vraiment et en fait
je ne sais pas si t'as choisi le bon manga du coup.
Non mais en fait le truc c'est que je lis pas le manga de l'Attaque des Titans parce que bah, j'aime bien l'ambiance déjà de l'animé et j'ai envie de regarder la fin
oui,
avec l'animé quoi. Donc là j'en peux plus, je n'en peux plus,
moi,
ça va arriver.
Moi je sais qu'il y a une fin
j'en
qui va arriver
j'en
à un moment.
Qui va devenir. Pardon. mais j'ai confondu avec Teen Titans en fait, le dessin animé.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Teen Titans, c'est fun. L'Attaque des Titans, j'ai fait 3 épisodes, j'étais là, je suis en dépression. En fait,
mais regarde
vraiment,
la suite.
C'est des gens qui meurent et qui se font bouffer par des monstres. C'est
non,
ça.
Mais il n'y a pas
non,
que ça.
On m'a dit,
c'est très très deep.
Je sais que c'est très bien. On m'a raconté les bails, les twists. Je sais c'est quoi l'histoire
merci.
Secrète. Mais oh. C'était trop l'adepte. J'étais là, c'est triste. Je n'ai pas envie de voir ça. Mais c'est très
bien. Oui, c'est un petit peu déprimant, effectivement. Ça va bien avec l'automne, finalement.
Ah, ouais,
regardez en novembre.
Voilà, peut-être mettez l'Attaque des Titans, lancez la. Mais Nana aussi, ça va bien avec l'automne, tu vois. T'en
ouais, c'est vrai.
À Tokyo sous
de
la
ouf.
Pluie.
De ouf.
L'automne, c'est super. Je pense que c'est la conclusion de ce podcast.
Ouais, très automne. Très automne.
Non, mais qu'il y a ça, moi qui.
Merci beaucoup, Sofia.
Mais avec plaisir.
Très LMK Core. On est ravis. Anthony Vincent.
Tu m'as trop donné envie de relire Nana.
Mais de ouf, moi aussi.
Merci beaucoup pour ce kiff. tout le monde devrait lire Nana au moins une fois dans sa vie.
De ouf, oui.
Mon kiff sera plus bref, je pense, parce que...
Ne nous engageons pas sur des promesses qu'on ne sait pas si on va tenir, écoute.
C'est une exposition dans une galerie privée à Paris. Enfin, n'importe qui peut y aller. Mais je dis privée par opposition à des galeries qui... En fait, non, est-ce que ça existe, les galeries publiques ? Je ne sais pas. Je m'égare.
Très, c'est une galerie, mais vous y allez. C'est pas payant, non ? Si, c'est payant.
Non, non, c'est pas payant, c'est okay. C'est une galerie, quoi. C'est une galerie. Chez un galeriste, ouais. La galerie s'appelle la Galerie 2-6. Elle est au 66 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e à Paris.
M'énerve qu'elle soit pas au 26, mais je comprends.
Non, mais en fait, c'est 2-6, ouais, genre 6-6.
Mais tu vois, genre immédiatement, j'étais là, pourquoi elle n'est pas au 26? C'est un choix. C'est l'art.
Ouais, en fait, ça s'écrit D-E-U-X, le chiffre en arabe 6.
Ah,
du coup, ça permet d'être... Enfin, ça explique un peu mieux. Mais bon, qu'importe. Du coup, l'artiste s'appelle Trey Hurst. Désolé, excusez mon accent, pardon my French. C'est un artiste afro-américain qui doit avoir la trentaine d'années, voilà. Et en fait, en gros, il vit à Bangkok. Il est d'origine, il est originaire de la Louisiane, à Baton Rouge, aux États-Unis. Et en fait, il fait ce qu'on appelle du, je sais même plus comment on dit, du pattern building. Pardon my French again. C'est en gros, c'est de la construction de motifs, hein, pour le dire simplement en français. C'est, il part des gestes hyper répétitifs, chorégraphiés presque. Et ben, en fait, il va dessiner des formes, des motifs qui se répètent au sens de pattern, enfin, répétition de motifs. Voilà, je me suis répété trois fois là. Mais c'est pour exprimer.
Tu as répété le motif.
Finalement. Voilà, c'est pour incarner ce que je raconte finalement. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans son travail, c'est que, c'est souvent avec des pinceaux très larges, voire des brosses, une brosse qui pourrait ressembler à une tête de balai pour dépoussiérer, enfin pour balayer. Wow,
challenge quoi. Quoi. Fantasia, vous voyez un balai. Bon,
ben,
c'est
imaginez
des balais,
une tête de balai, une brosse de balai que vous prenez, vous trempez dans de la peinture genre noir ou bleu, bleu clin de préférence, et en fait vous esquissez des arabesques ou au contraire des lignes très droites cassées. Et voilà. Et en fait, il fait ça, et souvent, c'est des couches et des couches qui parfois se superposent, parfois se croisent. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, déjà, on peut imaginer les gestes, le parcours qu'il a fait sur sa toile en voyant la peinture, d'une part, et d'autre part.
Du coup, est-ce que c'est que des très grandes toiles ?
Les deux. Il y a des choses assez monumentales qui peuvent faire 2 fois 6 mètres, des choses plus petites aussi, qu'il va faire avec des éponges, comme les éponges qu'on a pour faire la vaisselle, nous, ou alors des éponges naturelles, donc ce qu'on trouve vraiment dans la mer, l'éponge organique qui a une forme complètement irrégulière. Et il va la tremper dans la peinture, et justement, en fait, les pigments, forcément, au début du trait, sont assez intenses, et l'éponge est gorgée en peinture, et vers la fin de son trait, ben, elle est bien, bien, bien moins engorgée, et du coup, ça fait des dégradés de couleurs qui se superposent aussi parfois, donc c'est assez intéressant. Et du coup, voir ça, on a envie de s'imaginer comment est-ce qu'il l'a fait, quel parcours il a fait, par où il a commencé, par où il a fini. Un peu comme les jeux, là, je sais pas si vous voyez, où tu as plusieurs sorties, t'as un stylo et il y a un labyrinthe et tu dois trouver la sortie ou l'entrée, bref, ce genre de choses. T'es là devant en train de dire où est-ce qu'il a commencé.
Le fil, genre, ok, là il y a une peinture, donc c'est la fin, il a commencé
ouais, c'est
par
ça.
Là. Okay.
T'as envie de te poser ça comme question, enfin potentiellement, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai vécu l'œuvre. Et c'est aussi hyper intéressant parce que à mesure que ton œil voyage sur la toile, t'es en train de te dire, enfin, ça devient une expérience presque méditative en fait. En tout cas, ça a été mon expérience, j'ai vraiment adoré. C'est apaisant par moments et ça peut être aussi assez stressant. Enfin, je dis ça. Moi, ça m'a stressé par moments parce que tu vois que lui-même est frustré par le mouvement de son pinceau, de son outil, qui est parfois un pinceau, parfois une éponge, parfois une brosse. Et en fait, si vous imaginez une tête de balai, bah, la dureté des poils est pas la même tout le temps en fonction de l'angle que vous avez quand vous le tenez. Et du coup, on sent qu'il y a des moments où il maîtrise moins son outil. Et c'est hyper intéressant de voir que le trait incarne sa frustration. Et vraiment, j'aime trop. Et du coup, ça faisait parfois des moments un peu twistés, enfin, torsadés. Et ça m'a vraiment ému et intéressé aussi parce que ça me rappelait du textile en fait, des vêtements parfois. Je sais pas si vous voyez l'œuvre d'Issei Miyake, qui est un designer japonais qui nous a quitté il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai les dates en tête, enfin j'ai les dates sous les yeux.
Quelqu'un a pris des notes avant ce podcast. Sofia et Anthony sont sur le même canapé, c'est le canapé des gens sérieux.
Oui.
Et
oui.
120% des infos. Mathis et moi, on est sur des chaises.
J'ai des câbles.
Et on est là. Voilà.
En tout cas, Issei Miyake, c'est un designer japonais, un créateur de mode japonais qui est né le 22 avril 1938 et qui est mort le 5 août 2022. Mon Dieu, ça date.
J'avais
en fait,
pas en tête déjà. Qu'il est mort à quasiment 100 ans en fait. Il a vu tellement de trucs. 38-2022, il est mort à 80.
Ouais, 90 ans, un truc comme ça, ouais. Attends,
enfin,
ça
il a vu quasiment un siècle.
C'est un logarithme, ça.
Métonymie.
Je vois pas le rapport, j'ai pas compris.
Je l'ai pas non plus.
Alors, c'est parce que, vous a... L, hein. Parce que vous avez plus le Twitch en tête, mais moi qui du coup ai fait l'édition du LMK Twitch la dernière fois, ah, on oui. a vachement parlé de logarithme pendant des plombes.
Quand est-ce que je parle de logarithme ?
Oh putain.
J'ai vraiment aucun souvenir de ce que je raconte.
Mais vous êtes insupportable, genre, j'ai l'impression de parler d'une soirée avec un pote qui a fait un blackout.
Mais c'était il y a 3 semaines, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le dos a coulé sous les ponts.
Ok, bah en tout cas, pour revenir à Issey Miyake, bah en fait, c'est quelqu'un qui maîtrisait l'art du plissé pour faire des vêtements, et qui paraissait à la fois souple, à la fois rigide, qui pouvait s'étendre avec le corps, etc. Et du coup, la peinture de Trey Hurst, ses toiles, m'intéressait aussi dans... à cet égard-là, parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir du textile face à soi, en fait. En tout cas, ça peut rappeler des plissés. Moi, ça m'a rappelé les plissés d'Issey Miyake, et du coup, ça m'a beaucoup ému à cet égard.
Bah, en plus, j'imagine, s'il peint avec des brosses et tout, t'as une vraie épaisseur de matière, quoi. T'as la peinture, tu la vois en relief, quoi. C'est pas juste un truc plat.
Ouais, c'est ça. Et t'as des impressions de profondeur qu'il essaye d'exagérer. Ce relief, il essaye de l'exagérer parfois aussi, où il va découper les espaces négatifs. Je sais pas si je suis claire. On parle beaucoup d'espaces négatifs en mode, mais je sais pas si c'est le commun des mortels.
Bah, du coup, ce que je
le commande est martel. Enfin,
du coup, tu coupes. Non, pardon.
Les paysans, là.
Well,
peasants.
Les gueux.
Non, mais encore une fois, c'est. Enfin, non, rien. Bref. Du coup, en fait, c'est bah, les trous, là où il n'y a pas de peinture. Enfin.
Oui, ok, oui. C'est... Moi, okay. J'imagine une toile où, par exemple, il y aurait de la peinture tout sur le tour de la toile, mais au milieu, il y aurait un espace négatif, du coup, où il n'y a pas de peinture.
Ça, ou les endroits où les trucs s'entrecroisent, les traits de brosse ou d'éponge s'entrecroisent, et du coup, il va enlever un espace. Du coup, ça te donne de la profondeur supplémentaire, du relief supplémentaire. Et aussi, du coup, c'est des dessins abstraits, j'ai oublié de le préciser, et c'est soit à l'encre, soit à l'aquarelle, soit à l'huile, à la peinture à l'huile. Et il fait tout ça, j'ai dit toile, mais en fait, il fait tout ça sur du papier ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une méthode de fabrication de papier traditionnel au Laos, et au Vietnam notamment, et en Thaïlande aussi. C'est...
Vraiment, il y avait zéro chance pour que je sache ce que c'était tellement cultivé. Je suis là, ok.
Mais en gros...
C'est... À un moment, j'ai cru papier de soie. J'étais là, ah, mais c'est un peu ce qu'on sait, des fois, il y en a dans les boîtes de chaussures. Mais non, c'est pas lui. C'est le papier traditionnel du Laos, ouais, le fameux, ouais.
Ouais, non, mais du coup, c'est une méthode traditionnelle artisanale de fabrication de papier qui prend beaucoup de temps, qui est faite à la main. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que lui, il vient des États-Unis, il s'est installé en Thaïlande. Et là, il est exposé à Paris jusqu'au 8 octobre 2022.
Et go.
Voilà, go, si vous le voulez, si vous le pouvez. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a une session live painting, donc il va peindre en direct devant tout le monde le 29 septembre à partir de 18h à la galerie 26, donc 66 avenue de la Bourdonnais, si ça vous intéresse. C'est assez fun, et même si ça vous intéresse pas, on peut aller boire un verre après. Moi, je serai sans doute là.
Oui, j'allais dire, si Anthony Vincent, du coup, à cette occasion, ça vous donnera l'occasion de croiser le célèbre Anthony, plus dans des expositions juste en Suisse, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai grave bugué, là. Quoi ?
Quoi ? Je suis en Suisse ?
Je m'étonne que mes références d'il y a 3 semaines passent pas, mais si vous oubliez ce qu'il a dit il y a 10 minutes, moi, vraiment, je...
C'est lui qui a oublié, moi, je me suis oublié ce coup-ci.
Ouais, non, j'avais oublié, j'avoue. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, du coup, moi, j'étais au vernissage, j'ai rencontré, on a papoté et tout, et il est hyper sympa et accessible. Et justement, j'étais genre, ouais, ça m'a stressé, j'ai l'impression que t'étais anxieux. Il m'a dit, mais d'ouf, mec, et tout.
Ah, t'as grave compris ça.
Et j'étais là, ah ouais, je ressens ta frustration, ouais, c'est hyper intéressant et tout. Mais en fait, c'est ça qui m'intéresse dans cette toile. Bref. Et je trouve ça toujours fun de parler avec les artistes. C'est ça qui est cool avec les galeries, c'est qu'en fait, les expos dans les musées, c'est cool, mais souvent, c'est des artistes morts, hélas. Mais pas que, hein, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux artistes. Oui. Dans des musées que dans des galeries où en fait le contact est beaucoup plus simple avec les artistes, ils viennent souvent aussi pour écouter.
Bah, c'est l'intérêt pour eux aussi, c'est de voir des gens se confronter à leur art et de voir comment il va être perçu et tout, j'imagine. Après, un peu comme les musiciens qui n'aiment pas les concerts parce qu'ils sont timides, je pense qu'il y a des artistes que ça fait chier de rencontrer le public et de devoir être en galerie avec un verre de blanc tiède à la main à parler aux gens de leurs œuvres. Mais je pense que pour plein d'autres artistes, ça doit être c'est un peu le seul moment où ton travail devient moins. Qui est très intime et personnel et que tu fais dans ton atelier ou dans ta chambre ou quoi que ce soit, bah enfin tu vois des gens réagir à tes œuvres, quoi, c'est quand même fou.
Ouais, de ouf.
Et en plus lui, bah il est, comme tu dis, il est afro-américain, il vient en Thaïlande, il expose à Paris, donc c'est un regard sur son œuvre qui est d'une culture totalement différente de les cultures dans lesquelles il l'a créé. Donc c'est aussi, bah je sais pas comment les Français ils voient ses œuvres, est-ce que on les comprend pareil, est-ce que tu les ressens pareil que si t'étais soit quelqu'un en Thaïlande où il vit, soit quelqu'un aux États-Unis d'où il vient, tu vois, c'est
comme, ouais,
ça doit être ouf pour lui d'exposer à Paris, quoi.
Effectivement, ouais, et justement, cette notion de voyage et d'être. De chercher les chez soi, même ailleurs, de son lieu de naissance où l'on a grandi, c'était hyper intéressant. Et on a beaucoup connecté là-dessus à cet égard parce que littéralement, j'avais l'impression d'avoir compris ce qu'il voulait dire ou quoi. En tout cas, mon expérience lui a beaucoup parlé aussi. Et j'étais genre, ah, mais en fait, moi, ça me rappelle le fait d'être martiniquais en hexagone. Et il me disait, bah, moi, c'est la même chose quand je suis ici par rapport à Baton Rouge, qui est une ville où il y a beaucoup de personnes noires en Louisiane en général. Et voilà. Et aussi, la construction du motif répétitif, bah, ça m'a aussi rappelé, genre, un truc que je dis souvent à des potes quand ils refont la même connerie encore et encore, qui est une citation d'Einstein qui dit « La folie, c'est répéter toujours la même chose et espérer un résultat différent. » Et ben, j'avais l'impression que c'était vraiment ça sur cette toile, genre, même si c'est pas si répétitif que ça, hein, attention. Mais du coup, t'as l'impression qu'il a fait plusieurs fois la même chose, qu'il y a une micro-variation à chaque fois, et tu dis « Waouh, ça me rappelle moi avec mon ex. » Je sais pas, tu vois.
Moi, ça m'a fait ça. C'est la bonne phrase à sortir avec vos potes qui se remettent avec leur ex.
On me l'a beaucoup dit aussi, donc voilà.
Ouais, moi aussi, ouais.
Ouais, non, non, mais dans le même bateau. Voilà, du coup, c'est Trey Hurst, T-R-E-Y, plus loin, H-U-R-S-T, à la galerie 2-6, au 66, avenue de la Bourdonnée, à Paris, dans le 7e, et c'est jusqu'au 8 octobre, avec un live painting le 29 septembre, à partir de 18h.
Avec Anthony Vincent himself, maybe. Un verre de chardonnay à la main.
Évidemment, évidemment. Et là-bas, il est très frais et il est très bon, voilà.
C'est bon à savoir, tu le vends bien. Si jamais vous n'êtes pas à Paris pour aller voir cette expo ou le live painting, bah, vous pouvez découvrir son travail sur Internet, c'est ça qui est beau en 2022.
Ouais, sur son site, on mettrait son Instagram en barre d'infos, enfin, en description de l'épisode, pardon. On n'est pas sur YouTube.
C'est BFM TV, là.
Sur le bandeau chez vous, un indice chez vous. Non, ça ne marche pas en audio.
C'était mon kiff.
Merci,
merci
Anthony.
Merci.
Merci kiff. À vous.
C'est bien que tu aies parlé un peu de méditation, car j'ai un kiff méditatif, ce qui est rare.
Oh.
Alors, Sofia, tu me connais peut-être moins, mais vraiment, la méditation, c'est pas mon truc.
Oui, non.
Ah, du tout. Je suis un peu un connard cartésien buté qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal avec la vulnérabilité et les émotions.
Bon. High five.
Je suis en thérapie depuis longtemps, donc ça aide. Mais justement, un des premiers trucs dont ma thérapeute m'avait parlé, c'est ouais, la méditation. Et je te l'aime, non. On va pas faire ça. Et après, je lui ai expliqué ma vision de la méditation. Elle a dit, vous savez quoi, vous avez tort. Genre, fondamentalement, votre vision de la méditation est une partie extrêmement restreinte de la... Enfin, c'est une vision un peu cliché, quoi, mais... Okay.
Quand est-ce qu'on l'invite dans LMK? Elle a l'air géniale.
Mon rêve, je l'adore, ma psy. mais je crois qu'il faut pas mélanger...
Non, c'est...
Et elle m'a dit, ok, vous avez une vision très cliché de la méditation. On peut sûrement faire des trucs de méditation qui sont différents. Mais si vous me dites que c'est pas votre truc, ok, moi je suis pas là pour vous forcer, on va faire d'autres choses. Et on en a jamais reparlé parce que j'étais là, yes, j'ai échappé au point méditation. Et plus besoin de faire ça. Mais je sors. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, il est 18h. Et à 13h, je suis arrivée à Barbès, chez Meiso, M-E-I-S-O. Pour faire une session de flottaison dans un caisson d'isolation sensorielle.
Oh,
qu'en as-tu pensé?
Cadeau. Donc, le fameux cadeau.
Ça date, ça.
Ça date du monde d'avant. Ça date d'avant le Covid. Ce cher Fabrice Florent, qui vous a peut-être du coup parlé de sa propre expérience à l'époque dans Laisse-moi kiffer, a testé les caissons d'isolation sensorielle et ça lui a plu et il me l'a offert dans le monde d'avant. Et Meiso étant une entreprise très sympa, ils ont prolongé mon coupon encore et encore à cause du Covid, jusqu'à me dire, bon, meuf, là, ça fait 3 ans, faut venir. Et j'étais là, oui, d'accord, j'y vais, j'arrive. Donc, le caisson de flottaison, moi j'ai volontairement assez peu, je me suis peu renseignée avant, parce que j'aime, alors j'ai un côté où parfois je me renseigne à fond parce que ça me rassure, mais là j'y étais justement en mode, moins j'en sais, moins je me ferais une idée préconçue, parce que je sais que je suis un peu un connard avec les trucs, tu vois, genre c'est créé par une sophrologue, il y a des hamacs, il y a des infusions et des bols tibétains et de la méditation, et moi très vite j'ai une partie de mon cerveau qui fait... Ok, c'est un peu des trucs de blancs qui ont trop lu Mange plus rien et qui veulent trouver un sens à leur vie dans des cultures ailleurs,
bien,
quoi,
ouais.
Et des trucs qui sont pas scientifiquement prouvés. Parce que.
Arrête d'attaquer ma mère comme ça.
Désolée, mais je, voilà, je dis, c'est aussi moi qui suis un connard qui parfois a du mal à ouvrir mon esprit. Donc je me suis pas trop renseignée, notamment je savais pas à quoi ça ressemblait vraiment. Moi j'avais dans ma tête la gamine dans Stranger Things saison 1 quand il la fout dans une piscine gonflable au milieu du gymnase.
Alors, ou dans les Simpsons aussi. Si vous avez la ref, c'est incroyable. Je
j'ai
vous aime.
Pas là, je suis peu Simpson. Mais je sais qu'il y a tout dans les Simpsons, parce qu'ils ont prédit l'intégralité
ben
du monde.
Et il n'y a pas un super-héros qui est genre aveugle et qui doit dormir dans
Darby
des caissons parce que... Ouais, je crois, ouais.
Est-ce qu'il dort dans des caissons?
Il dort dans la flotte et il s'enferme dedans parce que sinon, le bruit du monde est trop
intense
pour lui.
Ah, genre il a une hyper-acousie parce qu'il est aveugle. Bah, peut-être Daredevil, un autre, mais c'est le super-héros aveugle le plus cool. Parce qu'effectivement, du coup, donc les caissons de flottaison. Alors, Meiso, c'est une boîte à Paris qui a 2 lieux à Paris, un à Barbès et un à Olympiade, et ils en ont aussi un à Lyon. Puis après, il y a plein d'entreprises qui font des caissons de flottaison autour de vous. L'idée, c'est qu'on est immergé dans de l'eau chaude quasiment. Enfin, l'idée, c'est qu'on sent pas la différence entre notre température corporelle et la température de l'eau, qui est dans un grand bassin rond, mais peu profond. Quoi ?
Ça m'angoisse de ouf.
Ah non, mais t'es pas prêt. Attends, moi, je savais pas si j'allais angoisser ou pas, mais j'étais là. Il y a moyen que j'angoisse quand même fort. Je suis pas méditation, alors je suis pas claustro, mais il y a un vrai truc de. Ça dure une heure et quelques, la flottaison.
Ah, c'est
bon. Alors, évidemment, c'est comme un escape où tu peux sortir si t'as un problème et tout, t'es pas enfermé, mais j'étais là. Peut-être on se fait chier fondamentalement pendant une heure. Peut-être on est dans notre tête et c'est horrible, je ne sais pas. Donc, c'est un grand caisson rond. Il y a trois. Au Meizu où j'étais à Barbès, il y a trois caissons différents avec des thèmes un peu différents. Moi, j'étais dans le floral, qui est du coup un grand caisson rond avec un beau rebord en marbre. Et dans chaque caisson, il y a aussi une douche parce qu'on se douche avant et après, je vais vous expliquer. Et il y avait un grand morceau d'arbre avec des feuilles d'érable un peu automne dessus. Il y avait la pièce minérale qui est à peu près la même, mais avec plutôt un gros morceau de marbre à la place de la plante. Et il y avait une pièce un peu plus. Artificielle, je dirais un peu plus mécanique, qui s'appelle le caisson, la spatiale, je crois, qui donne c'est vraiment juste un caisson rond. Il n'y a pas de déco, il y a un plafond blanc et tu fermes les murs et c'est tout rond et tout noir et t'es vraiment juste dans l'eau et il n'y a aucune distraction visuelle, il n'y a aucune décoration d'aucune forme.
Ça s'appelle une dépression, ça, c'est horrible.
Non, c'est trop bien.
Ah.
Du coup, c'est un caisson qui est profond, je dirais, ça m'arrivait au genou max, l'eau, et elle est ultra chargée dans un sel spécial qui s'appelle le sel d'Epsom. En fait, c'est du magnésium, c'est pas du sel marin, c'est pas du sel de table. Et c'est un sel qui est assez concentré dans l'eau pour qu'on flotte. Vraiment, on flotte comme dans la mer morte. C'est pas on flotte comme dans la mer normale. Typiquement, tu sais pas trop faire la planche, tu sais pas nager, c'est pas grave, tu peux pas couler. Il y a une telle concentration en sel que ça porte ton corps tout seul. Et du coup, l'idée du caisson de flottaison, c'est qu'on s'allonge dans l'eau. Et on passe une heure comme ça dans notre tête. Et pourquoi on parle d'isolation sensorielle? C'est parce que, alors il y a différents programmes et tout, mais en gros, on peut éteindre la lumière et on voit rien, rien. Il n'y a pas une loupiote, il n'y a pas un rayon de lumière qui passe, on voit rien. Et on peut choisir un programme où il n'y a pas de bruit, ou en tout cas, il y a des moments de silence. Et c'est du silence a priori quasi total, dans la mesure du possible, dans un bâtiment parisien où il y a quand même de la vie autour, mais c'est en sous-sol, c'est au fond d'une cour. Enfin, ils ont fait au max pour que ça soit très très calme. Et on entend juste les bloup-bloup de l'eau. Parce que du coup, on est allongé sur le dos, l'eau nous arrive, donc on peut pas couler et on peut pas s'immerger sans le vouloir. On peut pas se mouiller la tête et d'ailleurs, c'est très déconseillé de se mouiller le visage parce que c'est une eau hyper salée. Donc, guess what, sur les muqueuses, sur les yeux, c'est nono. Donc, il t'explique que ça peut arriver, notamment en bougeant, si tu veux modifier un truc ou quoi, de te prendre une petite goutte d'eau dans l'œil. Bon, ça pique, mais il te file un spray d'eau, du coup, sans sel, pour te rincer les yeux. Et sinon, la règle, c'est essaye de pas toucher du tout ton visage pendant le long. Tu t'allonges et t'as l'eau qui t'arrive, je dirais, un peu avant les yeux, donc qui couvre les oreilles entièrement. Tu flottes sur le dos. T'as tes bras qui flottent autour de toi. T'as tes jambes qui flottent. Juste tout ton corps est porté. Et donc ça dure une heure et quelques. Il y a différents programmes avec. Donc il y a une personne qui, un peu comme dans une escape game, encore une fois, t'explique tout avant, prend le temps de te dire tous les différents programmes, comment ça va se passer, comment faire si t'as besoin d'aide, que ça soit je veux une serviette en plus ou j'arrive pas à régler un truc ou juste, je sais pas, je me sens pas bien, je veux sortir et tout. Et donc il y a 5 programmes différents chez Meizu qui sont plus ou moins adaptés aux gens qui ont plus ou moins l'habitude de la méditation déjà en général et des caissons de flottaison en particulier. Donc il y a 2 programmes où il y a pas de, il y a personne qui te parle. Il y a un programme qui je crois est silence total, genre t'as rien du tout si tu veux juste méditer toi-même. Il y a un programme où t'as 10-15 minutes de bol tibétain et de bruit comme ça apaisant et après il y a rien. Il y a un programme qui est celui que j'ai fait. Donc ça a été créé par un couple qui est formé d'une sophrologue et d'un architecte. Donc elle a géré la partie sophrologie, méditation, soins holistiques du lieu. Et lui a géré la déco qui est donc la... Apparemment, leur nouvelle adresse à Olympiade est beaucoup plus moderne. Un peu plus dev perso, on y va pour se recharger. Alors que celle, l'historique qui est à Barbès, a été construite sur le modèle des onsen japonais. Donc les bains traditionnels japonais, les sources d'eau chaude et tout. Et c'est très très cosy, lumière hyper tamisée. Petite infusion, petit hamac, petit tatami et tout. C'est vraiment genre tranquille. Et donc t'as des programmes différents. Moi j'ai pris le programme Morphée. Donc t'as les 2 programmes où il n'y a pas de parole. Et t'as 3 programmes qui ont été créés et qui sont du coup narrés par la sophrologue à l'origine du lieu. Moi j'ai pris le premier qui s'appelle Morphée. Où en gros elle t'accompagne pendant 15-20 minutes. En gros c'est une méditation un peu guidée. Où elle te dit on se concentre sur... Elle te fait te concentrer sur toutes les parties de ton corps différemment. D'abord, voilà, la tête, les pieds, les épaules droites, puis gauche, et tout ce truc de pleine conscience, de rends-toi compte de ce que t'es en train de vivre, sans l'eau contre ton corps, sans la chaleur. Elle te fait faire des trucs genre touche la paroi du... Parce que tu flottes, mais du coup tu te déplaces un petit peu dans le bassin. Elle te dit trouvez une paroi, propulsez-vous de l'autre côté, et tout machin. Pendant 15-20 minutes, et au bout d'un moment, elle te dit et maintenant c'est le temps libre. Let's go. Et quand c'est fini, la salle te prévient par des petits chants d'oiseaux délicieux que on est sur les 5 dernières minutes et 2 minutes avant la fin, t'as la voix qui te dit C'est la fin de cette méditation, enfin de cette session. Il faut maintenant se lever du bassin parce que après le bassin se nettoie en tournant, donc il vaut mieux pas rester à flotter dedans. Sinon tu vas vraiment faire des tournicotas.
J'ai l'image en tête, ça tourne pas hyper vite.
C'est cette partie. Alors quand t'arrives, il tourne. Et quand je me suis mise dessus au début, vraiment je tournais et j'étais là. Oh, c'est chiant, wow, on s'arrête à un moment. C'est un d'elle. Et t'as deux autres programmes qui sont des méditations. Donc t'as une qui est une méditation un peu plus guidée et un peu plus pour les gens qui s'y connaissent. Et une qui est axée sur la création et la créativité, mais que pareil, ils conseillent pas pour la première flottaison. Parce qu'en gros, l'idée, c'est la première et les quelques premières flottaisons, tu vas quand même être pas mal concentré sur « Waouh, c'est incroyable comme sensation, c'est trop bizarre ce qui se passe. Genre, je flotte et il fait chaud et je pense à des trucs. » Et des fois, tu fermes les yeux et tu rouvres les yeux et t'es là « Mais combien de temps c'est écoulé ? Je n'en ai aucune idée. » Donc il faut un peu avoir l'habitude de ça pour apparemment pouvoir faire les méditations suivantes, parce que sinon tu vas pas être concentré sur la méditation, tu vas juste être en mode ouais, je flotte, c'est trop marrant. Donc moi j'étais en mode je flotte, c'est trop marrant, mais j'ai fait l'aspect un peu guidé avec les voilà le petit quart d'heure 20 minutes au début, parce que bah j'ai jamais fait de méditation dans ma vie et je me suis dit c'est bien si j'ai juste des bols tibétains pendant 10 minutes, je suis pas sûre d'être dans le bon mindset, et j'avais un peu peur de gâcher le moment entre guillemets, genre si je suis pas dans le bon mood mental et que je fais juste que tourner en boucle sur des trucs, je sais pas, des trucs de taf ou des trucs domestiques, c'est pas trop rentabiliser l'expérience. Donc j'ai eu cette petite méditation guidée. Et après, la voix s'arrête. Et après, t'es là. Et tu flottes. Alors il y a deux modes. Il y a le mode nuit noire, pas de lumière du tout. Il y a le mode veilleuse, qui est un arc lumineux autour du bassin. Moi j'avais pris le mode veilleuse parce que j'étais là. J'ai aucune envie d'être enfermée dans le noir. On peut toujours allumer la lumière, mais il faut la trouver. Ouais. On va commencer avec la lumière et tu peux l'éteindre si tu veux. Et quand tu l'éteins ou que tu la rallumes, en gros, quand tu changes de mode lumineux, ça dure, je sais pas, 5, 10, 15 minutes et après ça se remet tout seul comme avant. Donc t'es pas obligé de sortir du bassin à chaque fois, ce qui est vite chiant parce qu'en vrai, dès que tu te redresses, t'as quand même l'eau salée qui te tombe sur la gueule et c'est vraiment très salé. Et du coup, là, j'étais là, ah ouais, putain, ça pique les yeux et tout. J'étais vraiment, j'y vois rien. Genre, je me suis levée pour éteindre la lumière pour me dire comme ça, je peux ouvrir les yeux. Parce que là, j'ouvrais, en fait, très vite, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, ok, bah, j'aurais pas dû prendre la veilleuse parce que vraiment, j'en ai pas besoin. Donc, je vais éteindre la lumière pour pas avoir à penser à fermer les yeux. Je peux juste ouvrir les yeux. Sauf que le truc que j'allais éteindre la lumière, ça m'a mis de l'eau dans les yeux. Donc dès que j'ouvrais les yeux, même s'il faisait hyper noir, j'étais là, ah ça pique et tout. Une galère, une petite galère. Et ils vous donnent aussi des pansements, de la vaseline, etc. pour si vous avez des micro-coupures ou des machins comme ça, parce que c'est vraiment de l'eau très salée. Donc vous allez sentir toutes les micro-lésions de votre corps immédiatement en vous mettant dedans, ça va faire ah, aïe, 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 aïe.
Déjà dans la mer normale, ça pique alors.
Voilà, c'est voilà. plus, mais ils vous équipent tout, ils vous donnent du shampoing, du tout ce que vous voulez, du savon et tout. Donc on arrive, on se douche, on se protège les parties du corps qu'on doit se protéger, on se met dans le bassin, on fait la flottaison, ensuite on se redouche parce que le sel, l'eau hyper salée, hyper concentrée, laisse une vraie pellicule sur la peau et les cheveux qu'il faut beaucoup laver, mais tout est fourni, et ensuite on a un moment de... On sort, on n'est pas mis à la porte quoi, c'est vraiment tu sors, et même personne vient t'embêter, donc t'as la salle qui te dit c'est la fin de la flottaison, le bassin va se nettoyer et tout, tu te douches, mais personne vient de presser. Moi, je suis sortie, bah, du coup, il n'y avait pas d'employé présent, je suis OK. Je suis montée, il y a un espace à l'étage où on peut finir de se recoiffer, se maquiller. Il y a de la crème hydratante pour la peau, il y a plein, il y a du démaquillant, il y a plein de choses.
Trop bien.
C'est vraiment très bien. Et je crois que j'ai encore un peu de sel dans les oreilles. Car j'ai fait les cotons-tiges et tout, mais le sel, ça colle bien à la peau. Et après, on peut aller boire une petite infusion. Il y a différents espaces. Il y a un espace un peu plus bibliothèque. Un peu plus actif, on va dire, et un espace vraiment ultra tamisé avec des hamacs pour se reposer. Donc on peut aussi sortir du moment à notre rythme, parce que, bah, en termes d'expérience, donc, effectivement, le temps passe vite. Je me suis pas endormie, mais j'ai, je dirais, somnolée. J'ai eu ces trucs où quand on est au bord du sommeil et que le corps, il twitch de façon un peu aléatoire, où vraiment j'étais dans l'eau et à des moments, mes poignets...
Genre le sursaut, là,
ouais, le sursaut juste avant. Et j'étais là, ah ouais, je suis
en train
de m'endormir dans de l'eau, mais tu peux pas couler. Ouais. Enfin, ils sont là. C'est rare de s'endormir très profondément, mais somnoler, surtout, moi j'ai pris la méditation Morphée, donc ça se tient. Bah, c'est assez courant et ça fait partie aussi de l'expérience, quoi. C'est aussi une forme d'état second, l'état méditatoire, où du coup t'es semi-éveillé, semi. Tu penses à des trucs et en fait t'es là et en plus t'as pas d'idée de combien de temps ça fait. C'est juste tais-toi avec toi, dans de l'eau hyper confortable. C'est vraiment très agréable d'être en apesanteur comme ça. Et moi j'ai bien aimé la méditation pleine conscience avant qui. J'imagine Fabrice Florent qui écoute cet épisode et qui m'entend dire j'ai bien aimé la méditation pleine conscience et qui sera vraiment en mode t'es un connard, je t'ai dit il y a 5 ans que c'était bien, mais c'est un chemin, ok, il faut y arriver à son rythme. J'ai bien aimé le fait que la voix m'oblige à prendre conscience de tout mon corps, parce que c'est pas un truc qu'on fait très spontanément dans la vie quand on n'a pas l'habitude, et ça aide vraiment à profiter de, ouais, c'est un moment un peu unique, c'est rare d'être autant en apesanteur dans notre gravité terrestre, c'est pas un vol parabolique mais c'est pas loin, et c'est hyper relaxant, c'est vraiment, je suis sortie, j'étais là, ah, je suis bien, je suis bien, je je suis détendue. Alors que j'ai pas réglé des problèmes de ouf, j'ai pas médité à des émotions de ouf, mais juste, j'ai eu des pensées agréables, j'ai réfléchi à des trucs de ma vie, je me suis laissée porter aussi beaucoup. Et au bout d'un moment, il y a eu des chants d'oiseaux et la voix qui me dit « Il est temps de sortir du bassin, j'espère que la flottaison était bien. » Et j'étais là « Ouais, ouais, ouais. » Et pour info, ça coûte pas si cher.
C'est ce que j'allais te demander.
Une expérience de vie quand même atypique, puisque une flottaison chez Meizo, c'est 65 euros. Et y a, enfin, c'est cher, mais...
Franchement, enfin, je m'attendais à 150, tu vois. Genre, ma
session chez le coiffeur pour ma couleur, elle me coûte 250 balles, tu vois. Je suis là, 65 euros pour cet état de relaxation, c'est moins cher que ma psy. Alors, ça ne règle pas autant de problèmes que ma psy, mais je sais, en tout cas, c'est moins cher que ce que je pensais. Et il y a un tarif réduit de 49 euros pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les auto... Putain, c'est pour les auto-entrepreneurs. J'aurais pu avoir le paquet moins cher maintenant que je suis auto-entrepreneuse. Donc, c'est cher, bien sûr, c'est un budget et c'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est une expérience assez inédite et quand même, ouais, très, très relaxante. Alors, moi, j'avais un peu peur, comme je suis qui je suis, du côté un peu New Age, un peu, voilà, un peu bol tibétain, sophro, machin... C'est pas du tout poussé. Si ça nous intéresse, on peut le creuser, on peut demander les bols tibétains, il y a aussi des soins, etc. Mais moi qui suis une personne pas trop dans ces délires-là, moi j'ai juste été flotter dans un caisson et avoir pas de bruit et pas de lumière pendant aussi longtemps que je voulais. Et en fait, j'ai fait ça et je suis rentrée dans ma tête et c'était super. Donc merci Fabrice Florent pour ces cadeaux et très belle expérience. Alors que j'étais pas forcément cliente à la base, même si j'étais quand même très curieuse de ce que ça procure et c'est vraiment ultra relaxant.
Ça m'a trop, trop donné trop envie. Bien. Vraiment, moi qui suis très méditation, machin, bol tibétain.
Ah ouais, en plus, toi, tu voilà, vas pouvoir faire le mode bol tibétain à fond. Là.
Ouais, et ben, j'adore vraiment, ça me met dans un état, mais pas possible. Alors, dans un caisson d'isolation, ça a l'air incroyable.
C'est incre.
C'est vraiment bon, tu me l'as cool. Très, très bien vendu.
Et la prochaine fois, je prendrai sans la veilleuse, parce que vraiment, dans le noir, c'est trop bien.
Trop voilà, cool.
C'était mon kiff qui marque la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. Mathis me regarde avec un air de qu'est-ce que c'est que ta merde là, moi je vais pas faire ça.
J'ai très beaucoup travaillé.
À ton âge j'étais pareil.
Ah ça me rend
ah, cette phrase de
on a le même âge avec
Daronne.
Mathis. Ouais mais t'es plus avancée tu vois dans le chemin
c'est
de la
méditation. C'est parce que je suis une femme.
Je l'ai pas dit mais tu l'as dit.
Un peu méprisant.
Merci beaucoup Sofia pour cette première participation à Laisse-moi kiffer.
Mais merci à vous.
C'était super.
Merci beaucoup.
Je vous rappelle que vous pouvez envoyer des DM à Sofia et à Laisse-moi kiffer pour dire c'était super Sofia, reviens à Laisse-moi kiffer, c'était top. Merci Mathis.
Sinon elle est virée. Donc faites-le.
Ah yes.
Et oh,
je suis encore en période d'essai, s'il vous plaît.
Merci Mathis pour cet épisode.
Ben, merci à vous.
Merci Anthony.
Merci Mimi. Merci
chers
merci,
auditeurs
merci,
et auditrices.
Sofia, oula, j'ai.
Time to aller voir la fin de la journée. Hein.
De ouf, de ouf, de ouf.
On va faire ça. Des gros bisous et à jeudi prochain.
JBLMK.
Bye bye.
Bye bye.